Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h,
le meilleur de Team Dugas.
Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez maintenant sur RMC et que vous êtes fan de Team Dugas, eh bien c'est parfait, vous êtes au bon endroit. Pendant 2 heures, on va se remémorer les meilleurs moments de la semaine. On est là en direct du lundi au jeudi de 18h à 20h avec Christophe Dugarry et toute la Dream Team. Même en cette période sans match en France, on parle foot tous les soirs pendant 2 heures. En se remémorant des matchs marquants, à 19h, on reviendra sur le fameux Marseille-Montpellier d'août 98. Marseille menait 4-0 à la mi-temps, va s'imposer 5-4. L'entraîneur à l'époque, c'était Coach Courbis, il a raconté ce moment. On entendra ça tout à l'heure à 19h. L'autre événement cette semaine dans Team Dugas, c'était la présence de Claude de Koh-Lanta, l'aventurier de l'émission de TF1 qui a marqué le public et qui est un grand fan d'RMC et de foot. Il était donc notre invité cette semaine dans Team Dugas et avec lui, on a débattu sur l'actualité autour de Thiago Silva qui ne poursuivra pas avec le PSG. Le débat, c'était en début de semaine avec Eric Dimeco, Franck Leboeuf et Christophe Dugarry.
Bonsoir Claude, quel honneur de te recevoir, merci beaucoup.
Bonsoir Christophe, merci à vous tous de m'avoir invité ce soir, ça me fait très plaisir, c'est une émission que j'écoute très régulièrement.
C'est ça, t'es auditeur
d'RMC. Merci beaucoup Claude. Ouais. Ouais. Je savais pas qu'on était obligé d'être menteur que de te faire. Je crois que c'est une des qualités de l'émission. Hein.
Si, il faut être tactique, stratège.
Non mais pour le coup, je mens pas.
Dis-moi Claude de Koh-Lanta, c'est pas ton nom de famille
Oui, c'est ça, c'est gênant quand
fois,
même.
T'en as pas marre qu'on t'appelle Claude de Koh-Lanta?
J'ai Claude l'aventurier, Claudius,
tu veux. Et c'est quoi ton nom?
Bon, après j'aurai des problèmes, c'est du monde en Claude.
Ah ouais, faut pas le dire.
Ah, tu veux pas le dire, d'accord.
Si, Claude d'Artois, pas de problème.
Claude d'Artois. Voilà. Oh, ça claque un peu moins que deux Koh-Lanta.
Bah, après, on a tous des surnoms. Manu Petit, c'est Manu la queue de cheval. Donc, oui. Chacun son truc.
Très bien. Sais,
c'est... Ah, bah oui, écoute, qu'est-ce que je te dise.
C'est un sujet qui va vachement intéresser Jean-Louis Koh-Lanta.
Ah, mais moi aussi, pas
mais
Jean-Louis.
Moi, je suis archi fan de Koh-Lanta depuis des années.
Oui, mais toi, c'est comment pouvoir.
Toi, tu m'as démystifié le truc, Francky, parce que j'ai compris que tu étais allé juste pour prendre un cachet quand tu l'as fait et qu'une semaine après, c'était fini. Mais Claude, il rend le truc plus mythique, tu vois.
Là, on est héros, champion du monde.
Là, on est légende.
17 victoires, c'est jamais arrivé.
On va en parler.
Voilà, non, extraordinaire.
Merci.
En plus, ça intéresse au foot. On va pouvoir mélanger tout ça. Ça va être super.
Alors, exactement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'il y en a quand même si les scores de TF1 et de Koh-Lanta tous les vendredis soirs ont été extraordinaires. Claude fait donc partie des héros de Koh-Lanta qui a fait sa 3e édition de Koh-Lanta qui s'est terminée vendredi dernier. Il n'a pas gagné, mais il y a eu un vrai déferlement autour de toi. Un nombre de réactions sur les réseaux sociaux et j'imagine dans la rue. Ça a dû te faire tout drôle quand même de suivre tout ça.
Ouais, c'est sûr, parce que tu fais pas l'aventure pour tout ce qui peut arriver après, et je pensais pas qu'on susciterait autant de retours positifs, et pour ma part, j'avais jamais fait l'unanimité, donc là, c'est une première. Bah, des fois d'avoir eu le titre, j'ai eu le cœur des gens, donc je pense que c'est la plus belle victoire qu'on peut espérer avoir sur Koh-Lanta.
C'est ça, parce que t'as fini 3e.
Il faut être fair play, il faut quand même féliciter Nawel, qui a gagné sur les poteaux,
évidemment,
contre toi, et qui avait gagné,
bien sûr.
Voilà, le vote des.
Bah, on y reviendra en détail hein, sur l'aventure, etc. Mais comme tu l'as dit, t'es fan de foot et j'ai lu que donc t'avais découvert le foot avec le Bordeaux de Zidane et Dugas.
Exactement, voilà. C'est.
Non, c'est vrai. Tu ne pouvais qu'aimer alors.
Non, Lizarazu faisait une belle triplette. C'était vraiment le Bordeaux de la grande époque. Nous, on était un peu en retrait. Je parle du Paris Saint-Germain et vous étiez souvent avec Marseille plus au coude à coude. Et c'était vraiment l'époque où j'ai commencé à découvrir le football à la télévision.
Bon, tu fais comme chez toi, Claude. T'interviens quand tu veux et on parlera en détail de ton aventure, etc. Dans l'heure qui vient, puisque tu nous accompagnes. À 19h, on reviendra sur le fameux Marseille-Montpellier de 98. Oh. Alors, on l'a déjà un peu fait ce match, mais beaucoup de gens l'ont réclamé. Coach Courbis sera là. Dugas également, tu as pris part à ce match. Le fameux 4-0, 5-4 à la mi-temps. Coach Courbis avait tout prévu. Il nous le racontera. Non, pas du tout, mais il sera là quand même pour en parler. On va revenir également donc sur Thiago Silva qui ne va pas continuer au PSG. Le club perd-il un très grand joueur? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Mais on va débuter, avant ce débat sur Thiago Silva, par l'actu de la journée. C'est la décision du Conseil d'État, saisi donc par Amiens, Toulouse et Lyon. La décision a été rendue en fin d'après-midi. Plusieurs choses à détailler avec Loïc Braillet. Salut Loïc.
Bonsoir tout le monde.
Salut Loïc.
À retenir, messieurs, la saison ne reprendra pas. Le classement est entériné. Donc Lyon ne sera pas en Coupe d'Europe via le championnat. Et ce qui mérite des explications, c'est la décision concernant le maintien d'Amiens et Toulouse. L'ordonnance du Conseil d'État suspend les relégations donc de ces deux clubs, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut dire à 100% qu'ils sont maintenus, Loïc.
Et c'est à partir de là que les choses vont effectivement se compliquer. Alors,
en fait, c'est vrai que d'habitude, elles ont l'air simples. Depuis le début, tout est simple.
Ça va être un enfer, Lucas. Le Conseil d'État, en fait, ne valide pas les relégations d'Amiens et Toulouse, car selon lui, la Ligue a justifié ces deux descentes uniquement sur la base de la convention qui lie la Ligue à la Fédé et qui dit notamment que la Ligue 1 ne peut pas se jouer à plus de 20 clubs. Cette convention prenait fin au 30 juin et dans son ordonnance, le Conseil d'État dit qu'il n'y avait aucune raison qu'après le 30 juin, la Ligue ne puisse pas imaginer une Ligue 1 à 22. Argument qui est donc rejeté par le Conseil d'État, là je vais le citer, qui ordonne à la Ligue, en lien avec la Fédération, de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Vous admettrez qu'avec une telle phrase, il y a clairement quand même une orientation vers le principe d'une Ligue 1 à 22. Sauf que, et ça c'est assez étonnant, pour avoir passé quelques coups de fil à des avocats spécialisés dans le droit du sport, le Conseil d'État se base uniquement sur cet argument-là, de cette fameuse convention qui prend fin au 30 juin. Sauf que, vous imaginez bien, la Ligue et la Fédération, ça fait un petit moment qu'ils parlent de la nouvelle convention qui va être appliquée à partir du 30 juin et qui dit exactement la même chose, que la Ligue 1 ne pourra pas se jouer à plus de 20 clubs. Donc ça change presque rien. Les juristes en tout cas des deux instances sont au taquet en ce moment. Tout le monde travaille pour essayer de trouver une solution. Une assemblée générale exceptionnelle de la Fédé devrait avoir lieu dans les prochains jours. Alors évidemment, le TFC a déjà communiqué, se félicite de la décision du Conseil d'État. On est donc maintenu en Ligue 1 pour la saison 2020-2021, ce qui n'est absolument pas confirmé à l'heure où on se parle. Satisfaction aussi chez Bernard Joinin du côté de d'Amiens. Et donc là, on va voir ce qui va se passer, parce que si jamais la Fédé et la Ligue ne prennent pas en compte l'ordre, je reprends les termes du Conseil d'État, de réexaminer ces deux principes de relégation, eh bien il n'y a rien qui empêche Amiens et Toulouse de revenir une deuxième fois devant le Conseil d'État avec l'obligation pour la Ligue de montrer d'autres arguments que cette seule convention qui limite le nombre à 20 pour
et
la Ligue.
Et c'est valable pour Toulouse et Amiens, est-ce que c'est valable aussi pour les deux derniers de Ligue 2?
C'est une excellente question qui se pose aussi.
Non, ça pourra être valable si ces clubs-là vont devant le Conseil d'État, l'ont fait Amiens et Toulouse.
D'accord, ils l'ont pas fait encore.
Pour l'instant, non, ils sont sur les étapes précédentes, parce qu'en termes de calendrier, ça a été un peu décalé. Eux, ils sont encore au CNOSF, et ensuite, on peut aller devant le Conseil d'État.
Donc, mais c'est pour faire très attention aux décisions qui sont prises, parce que tous les autres clubs, et notamment les clubs amateurs, surveillent ce qui se passe. Enfin, en tout cas, les clubs de Ligue 2, de National, vont surveiller la décision de la Fédé et la Ligue et de l'option qui va être choisie, parce qu'effectivement, s'ils sont pas d'accord, d'autres recours vont aller au Conseil d'État.
Heureusement que les règles de Koh-Lanta sont plus simples.
Christophe, ça intéresse le monde entier tellement on est ridicule. Ah bon, c'est-à-dire que moi, les Américains m'ont appelé pour savoir ce que j'en pensais de
Donald Trump.
Non, on parle de sport. ESPN, la chaîne ESPN veut savoir comment on va gérer l'année prochaine.
Et tu leur as expliqué comme ça,
Michael Jordan. Je vais expliquer ce soir.
C'est vrai qu'ils sont très inquiets. Ils se demandent où vont jouer Toulouse et Amiens l'année prochaine. Les Américains sont très très inquiets.
C'est pas possible, ça va faire une année blanche.
C'est compliqué parce qu'ils veulent quand même garder les 27 journées qui ont été disputées. Ça a été entériné quand même. Le classement après les 27 journées avec le quotient, on n'y reviendra pas.
Non mais Claude, là, t'as un panier de crabes, je te veux dire que Koh-Lanta, c'est la rigolade. Tu aurais pu rester un mois de plus, c'était pas pire.
Tu vas dans une réunion de la Ligue, tu te fais manger tout cru.
On peut t'envoyer à la Ligue pour régler les problèmes.
Vous voulez une petite anecdote très drôle? On a appelé l'avocat de Lyon qui nous a dit, finalement, dans l'ordonnance du Conseil d'État, il n'y a rien qui rend illégal la reprise de la saison. La Fédé et la Ligue veulent rester à 20, on finit la saison, on fait un play-off et on finit à 20 avec descente
mais
et qualif. C'était
ridicule,
très drôle quand même.
Très bien. Merci Loïc pour tout ça. Duga, tu dis les règles, elles sont simples dans Koh-Lanta. Il y a certaines épreuves, je pense que pour les comprendre, la prod coupe un peu l'explication.
Il vous démontre un petit peu quand même avant.
Oui, bien sûr, avant chaque jeu, on a le débrief, évidemment, sinon on se perdrait peut-être.
Parce que nous, téléspectateurs, on a une phrase de Denis Brogniart pour un truc hyper compliqué, Claude, tu captes rien. Mais non,
mais c'est Claude qui explique à tout le monde comment il faut les faire.
C'est pour ça qu'il gagne.
Alors ça, c'était à l'orientation notamment. Hein, il expliquait à tout le monde où il fallait aller.
Il y en a quelques-uns, tu leur expliques que l'autre taille, qu'on ne parle pas
non plus. Il fallait pas chercher en fait.
Non, mais en fait, franchement, j'avoue, ils étaient tellement perdus que je pensais que j'avais le temps encore même derrière de m'en sortir, même en les aidant.
Tu pouvais en trouver deux même.
Moi, je peux poser une question justement sur le jeu.
Alors, Koh-Lanta.
J'ai regardé tous les vendredis, bien évidemment. Il y a une chose que j'ai toujours pas compris et j'aimerais que Claude m'explique. Moussa, c'est un héros, Moussa.
Oui, du gars, oui.
Pourquoi ce héros, cet athlète, ce sportif de haut niveau, il gagne pas une compète. Et alors surtout, ce que j'ai encore moins compris, c'est pourquoi et comment il a fait pour devenir le gourou des jeunes.
Avec toi.
Alors moi, c'est une énigme absolue. Alors, parce que chaque fois, je le voyais à la télé.
Je
soit il mangeait, soit il perdait un jeu. Donc je n'arrive pas à comprendre.
Attends, je complète juste ta question pour ceux qui n'ont pas suivi.
Justement, il va venir demain t'expliquer.
C'est un gourou.
Il y a toujours deux équipes, des rouges, des jaunes. Et grosso modo, quand il y a réunification, il y a un groupe qui fait, qui vote contre les autres, et c'est compliqué de faire renverser la vapeur. Et lui était effectivement le chef des jaunes, et on n'a jamais trop compris pourquoi.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sympa et tout, il n'y a pas de souci. Mais
évidemment,
c'est quoi le problème?
Non, mais Moussa, déjà, c'est un gabarit, il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas forcément le meilleur gabarit, déjà, pour performer sur Koh-Lanta, parce qu'il a fait quand même 1m90, il n'est pas loin de 90 kilos, et il a les mêmes rations que nous. Alors j'ai toujours été pour dire que ce n'était pas logique. Forcément, on n'a pas tous les mêmes besoins et les apports nutritionnels. Et donc, c'est compliqué. Alors j'avoue, sur certaines épreuves de force, il est largement au-dessus, et il aurait pu arracher une ou deux épreuves comme celle des sacs. Mais voilà, il était dans un mood aussi un peu tranquille, parce qu'il avait une assurance derrière stratégique qui lui permettait d'avancer.
Mais pourquoi c'est un héros? Pourquoi il était considéré comme un héros?
Parce qu'il est allé loin dans sa première édition.
Malgré tout, il n'a jamais été éliminé du jeu en 3 participations, ce qui fait de lui il a fait plusieurs fois les poteaux,
comme
on n'a jamais mis attention à sa flamme. Donc ça prouve qu'il a un très bon jeu social et qu'il fait d'air.
Exactement.
Je pense à un truc.
Contrairement à toi, du gars, tu as un très très bon jeu social et tu fais d'air pas tout le monde.
J'étais très surpris de voir que.
Non, mais moi aussi, je me suis posé la même question.
Que les jeunes lui mangeaient dans la main comme ça, il a aucun vote contre lui.
Non, mais tu parles d'Inès. Si tu parles comme ça, tu parles d'Inès.
Jean-Louis, il faut lancer un concept là. 98 à Koh-Lanta là.
Ah, j'aime bien ça.
Ah ouais.
Tu penses qu'on peut réconcilier
Deschamps, Desailly, Dugarry, Zidane?
Alors, on va éviter de. Si je peux éviter de faire le jeu des flèches et des arcs. Avec des champs, parce que autrement on va se canarder, je te le dis de suite.
Non, ça peut être intéressant.
Il faut lancer un appel à Denis Brognard.
Tout le monde ne serait pas égal face à la fin.
Moi, je prends Lisa dans mon équipe.
Ah ouais, Lizarazu, il serait bon.
Alors remarqué du gars que excuse-moi que Denis m'avait comparé à un joueur de foot, qui je serais comme joueur de foot, il m'a comparé à Deschamps quand même.
Oui.
C'est vrai?
Ouais.
Moussa, c'est Dugarry.
T'es quand même meilleur sur les épreuves que Deschamps l'était sur le terrain. Enfin, tu vois, il est stratège, Deschamps,
plus dans l'optique de dire que c'est peut-être pas forcément le plus impressionnant et le plus, mais c'était quand même celui qui mouillait un peu comme le maillot et qui
maîtrise tout.
Tous les éléments, exactement.
C'est un peu tiré par les cheveux. Par contre, si on doit faire Koh-Lanta, Bernard Diomède, il est dans la merde, parce que s'il faut pas qu'il bouffe l'artiste là.
Il y a pas
les grands sportifs, ils sont en difficulté sur Koh-Lanta, parce que justement c'est vraiment t'es dans des situations vraiment particulières, et moi j'ai un physique qui me permet justement d'être bon, parce que je fais du trail et de la longue distance, et j'ai l'habitude de courir et de puiser dans des réserves, et je suis pas comme vous avec un besoin constamment d'aller en vitesse, etc. Et je pense que voilà, le physique fait beaucoup.
Il y a pas que ça aussi,
il faut arriver un peu en surpoids
sur le truc
que tu vas perdre. Il faut arriver
sur sur l'épreuve, donc qui était unique, puisqu'elle avait jamais eu lieu avant, donc où tu dois t'adapter, les dominos là. Même celle-là, tu as gagné. C'est ta faculté d'adaptation à toutes les épreuves, parce que c'est pas que des épreuves physiques, quoi.
Bravo Claude, mais les dominos, c'était pas très compliqué à comprendre.
Non, mais c'est pas évident.
Il y en a, ils ont pas trop compris.
Eh ben oui, ils faisaient tout tomber chaque fois.
Ouais, mais alors moi, pardon, c'est quand même la question que je me suis posée aussi. Est-ce que Claude, c'est un phénomène si fort que ça, ou est-ce qu'autour,
la question est revenue, et tu peux toujours ça. C'est comme quand tu dis que le lion domine, est-ce qu'il est plus fort ou que les autres sont pas bons? C'est toujours la même question. Au final, il a dominé, il a gagné, et c'est ce qu'il faut retenir. Parce que gagner à Koh-Lanta, c'est pas minimiser l'acte, c'est difficile d'aller chercher des victoires.
Oui. D'ailleurs, toi, tu considères que t'as gagné, enfin, je veux dire, le vote final, tu l'as toujours mis à part.
Évidemment.
C'est le truc sur lequel t'as pas la main.
Évidemment, parce que c'est une continuité. L'aventure, tu peux pas la juger sur une seule épreuve. C'est comme sur un match.
Claude, j'ai pas tout vu, mais la Nahuel qui semblait être la plus dangereuse, notamment sur l'épreuve des poteaux.
J'aurais dû la sortir, évidemment.
Voilà. Donc, tu aurais pu la sortir. Est-ce que tu as eu le moyen, à un moment donné, de la sortir? Parce que, selon les alliances, tu peux pas, des fois, tu vois.
Non, mais clairement.
Tu aurais pu à un moment donné?
Oui, j'aurais pu à un moment donné, parce que j'ai le pouvoir au dernier conseil de décider de qui part. Clairement, je suis en position de force, mais je pense pas à elle, parce que j'ai partagé déjà deux épreuves avec elle en binôme. C'est quelqu'un que j'estime et que
c'est quoi ça? C'est quand tu avais les deux votes plus les trucs là, c'est ça, d'accord.
La petite leçon à Régis. Non mais attendez, on va y revenir. On est quand même une émission de foot, donc on va parler de...
Mais non, mais il n'y en a pas du foot.
On n'a plus de nouvelles du foot depuis longtemps. Moi, je veux savoir ce qui se passe.
Mais il n'y a rien.
Mais ça passe rien. Allez, on passe à Koh-Lanta.
Moi, je suis d'accord avec vous, mais on va y revenir dans 5 minutes à Koh-Lanta. Ne vous inquiétez pas. Mais tout de suite, donc Thiago Silva va quitter le PSG. On a peut-être trouvé celui qui doit le remplacer.
C'est Claude.
Claude, le grand champion de Koh-Lanta.
La victoire pour Claude.
Pour le pouvoir du payeur en estrade, c'est pour toi, Andrea.
Le totem vous rend intouchable.
Il y en a un de nous qui passera du rêve à la réalité.
Claude, vous êtes le maître du jeu.
Donc tu vas prendre tous les sacs, désolé.
Ah, malin, instinctif, courageux, Claude se faufile une nouvelle fois jusqu'au bout.
Personne n'éteindra ma flamme. C'est déjà une belle fierté après 3 aventures.
Donne les sacs.
Je prends les sacs.
Truc de fou quand même, je réalise pas que je suis sur un poteau là.
Bah, saute dans l'eau, tu verras si ça marche ou pas.
Merde, putain.
Claude, vous avez marqué l'histoire de cette aventure exceptionnelle. Vous faites partie des légendes de Koh-Lanta.
Voilà donc une façon d'introduire le débat sur Thiago Silva qui va donc quitter le PSG à l'issue de la saison. On l'a donc appris hier, le club lui a indiqué que son contrat ne serait pas prolongé. Fin d'une aventure de 8 saisons pour lui. Alors il est censé tout de même revenir pour terminer la Ligue des Champions au mois d'août. Dans quel état d'esprit on peut se poser la question. Mais d'abord, question simple, le PSG perd-il un très grand joueur? 32-16 pour débattre, appelez-nous. On peut opposer à ça un manque de leadership parfois, une tendance à peut-être trop reculer sur certains grands matchs. Je sais qu'en disant ces deux dernières phrases, Duga n'est pas d'accord, mais voilà. Qu'en penses-tu, Duga? Est-ce que Paris perd un très grand joueur?
Oh, mais moi, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, j'ai toujours aimé Thiago Silva. Je pense que c'est un immense joueur. Voilà, il est capable d'être dur sur l'homme, de bien défendre. C'est un excellent relanceur. Il a une vision du jeu. Alors après, c'est pas parce que ces dernières années, et certains disent de lui, c'est vrai qu'il manque un petit peu parfois de leadership ou de ressources mentales, que je changerai d'avis. Pour moi, c'est un grand, très, très grand défenseur. J'aurais adoré l'avoir dans mon équipe. Et je pense qu'il fera partie des à mon avis, des 10 plus grands défenseurs au monde, voilà, de l'histoire. Moi, j'adore Thiago Silva. Voilà.
Tranquille, toi, le défenseur.
Moi, je trouve que c'est un excellent.
Qu'est-ce qu'il a dit? 10 des meilleurs de l'histoire?
Ouais, moi aussi.
Ah, désolé, Eric, je t'ai pas mis dedans.
Non, mais toi non plus, mon Francky, désolé. Non, mais c'est pas grave.
J'ai mis Billy chez Laurent Blanc.
T'as bien fait. Mais sincèrement, oui, c'est un grand joueur. Oui, il a du talent. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent. Et quand tu es en défense centrale, que tu es capitaine de ton équipe, que ce soit avec le Brésil ou avec le PSG, il y a eu des manquements. J'ai toujours dit qu'à un moment donné, il avait manqué l'opportunité d'amener le club très très loin, et que à un moment donné il fallait s'en séparer parce qu'il ne représentait pas l'avenir du club, et que il y avait un certain groupe de joueurs qui ont bien sûr des qualités internationales, des grandes qualités, mais qui n'ont pas amené le PSG en victoire ou même en demi-finale d'une Champions League.
C'est un grand joueur ou pas alors?
C'est un bon joueur de football, mais c'est pas un grand grand joueur.
Ibra, c'est un grand joueur ou pas?
Non, c'est un très bon joueur. Non, c'est un très bon joueur.
Il va plus en rester beaucoup alors, d'accord.
Tu parlais de Laurent Blanc. Laurent Blanc, il t'a amené à gagner une Coupe du Monde, il t'a amené à gagner un championnat d'Europe. Voilà,
Thiago Silva, il a jamais été champion du monde, non?
Thiago Silva, il n'a jamais été champion du monde.
Je te rappelle quand il était capitaine, quand il est parti, c'était 7-1 contre l'Allemagne.
Il jouait pas, mais
il faisait partie de cette équipe. Il n'était pas. Oui, d'accord.
Avec lui, ils auraient gagné. Alors, Eric, qu'est-ce que t'en penses?
Le problème de Thiago Silva, moi je suis d'accord avec Duga, je trouve que ce mec-là a des qualités énormes, c'est-à-dire qu'il tacle jamais, il est toujours bien placé, il va vite. Le problème, c'est que il représente les années de loose du PSG finalement, parce qu'avec cette équipe-là, au moins fait une demi-finale, voire une finale. Et le problème, c'est que c'est le fil conducteur de toute l'année, de toutes les années Qatari. Et c'est le seul, parce que même si il y en a d'autres qui ont failli.
Il y a Cavani aussi.
Non, mais oui, il y a Cavani aussi. Il est pas arrivé après. Non, il arrive en même temps Cavani.
Un petit peu après Cavani.
Oui, mais on s'en fout. À la limite, tu as raison avec Cavani aussi, mais il y en a d'autres qui représentent la loose, comme tu disais, Zlatan. Ils étaient là, tout ça. Mais lui le problème, c'est qu'il a été de toutes les campagnes. Et ce qui est terrible, c'est que la saison de la remontada, il est pas là à l'aller. C'est Kimpembe qui joue, qui est énorme d'ailleurs, où il faut un match énorme. Le PSG, il est là au retour et l'équipe se liquéfie défensivement. C'est terrible pour lui. Alors après, c'est juste parce que tu vois, regarde, Franck, ce qu'il dit.
ça montre bien que tu racontes qu'il n'est pas de la branlée du Brésil contre l'Allemagne. Beaucoup pensent qu'il y est. Oui. C'est-à-dire que ce mec-là focalise le côté pleureuse et mentalement fiable du Brésil de cette génération-là et du PSG de ces dernières années. C'est ça qui est terrible. C'est juste d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est et tu sais, dans un club qui a autant d'ambition que Paris, tu restes 8 ans avec les catastrophes qu'il y a eu. Déjà, moi, je trouve que c'est anachronique. Voilà, je trouve que c'est anachronique.
Et Claude, t'en penses quoi, toi, en tant que supporter du PSG?
Je suis d'accord pour tout ce que vous avez dit. C'est clair, il a failli à certains moments importants, mais c'est vrai qu'il a. Je pense que la durée de sa présence dans le PSG a été un peu longue.
Il aurait dû tourner la page avant
et laisser la place surtout au centre de formation, parce qu'on avait quand même des très bons joueurs qui demandaient qu'à éclore. Et il a un peu pris cette place-là. Alors, il aurait dû peut-être laisser de temps en temps l'opportunité aux autres.
J'ai juste une petite question pour Eric, qui a commencé son explication en disant que c'était un mec qui taclait jamais, donc ça
pouvait. Oui, ça t'a fait bondir, ça.
Il a fait un grand joueur.
Non, j'ai pas dit ça.
J'ai bien entendu. J'ai même commenté. J'ai Eric Dimeco qui nous dit que un grand joueur.
Écoute ce que je dis, Fraki. Je dis que moi je le considère comme un grand joueur et j'ai énuméré ses qualités. Et dans ses qualités, son placement, un mec qui tacle rarement, c'est un mec qui est souvent bien placé ou qui par son poste et la manière dont il joue, je dis pas que c'est parce qu'il tacle pas que c'est un grand joueur, sinon j'aurais été une pipe.
Mais non, mais donc, c'est pour ça que j'avais voulu venir là.
Ses qualités et le fait de ne pas tacler quand tu es défenseur central, quand tu joues dans une équipe qui domine, et surtout quand tu es dans l'anticipation, je trouve que c'est une qualité aussi.
Francky, voilà. qu'est-ce qu'ils en pensent, les Américains, de Thiago Silva?
après il a juste fait Milan AC et il a juste fait le Milan et le PSG. Donc après, à partir de là, il y a beaucoup de défenseurs qui ont prouvé dans plusieurs clubs, et lui il a prouvé dans un club qui est Milan, mais sur une courte durée, et après dans un club comme le PSG où il avait un certain confort par rapport à son statut et l'éclosion du club. Donc c'est peut-être aussi ça qui lui a manqué.
Tu gardes un goût amer quand même de son passage.
Non, mais j'aime beaucoup Thiago Silva. Quand il est arrivé, j'étais très content, et je respecte évidemment le joueur qu'il est et tout ce qu'il a pu entreprendre.
Christophe, tu m'as posé la question tout à l'heure, si c'est un très très grand joueur, Thiago Silva, Sergio Ramos, tu le mets où?
Non, mais je le mets dans les 10. Très grand joueur aussi, mais je le mets dans les 10. Moi, Ramos, je le mets potentiel ballon d'or. Ouais. Après, les défenseurs sont pas.
Si tu les mets dans les 10, alors Ricardo Moser, tu les mets où?
Si tu veux, par exemple, je préfère jouer 100 fois avec Thiago Silva qu'avec Piqué, par exemple. Il a gagné des Ligues des Champions. Il a gagné des Coupes du Monde, il a gagné plein de choses.
Moi, je vais vous résumer l'affaire. Thiago Silva, c'était Théoura, en fait. C'est-à-dire, c'est un super aventurier. Il dégage bien, mais à l'arrivée, il n'y a pas de victoire et il n'y a même pas de finale. Il y a toujours un truc qui cloche à un moment.
En plus, il garde des trucs dans son sac qu'il aurait dû sentir.
Et puis, il a l'air sympa.
Ouais, c'est ça. Voilà donc pour la vie de la Dream Team et de Claude de Koh-Lanta, qui était notre invité exceptionnel cette semaine. On revient dans un instant avec l'interview 0% foot, 100% aventure, avec donc le vainqueur du cœur de Koh-Lanta, Claude, qui était notre invité cette semaine. À tout de suite.
RMC, 18h-20h,
le meilleur de Team Duga.
Et on est ravis de vous accompagner en ce samedi soir avec les meilleurs moments de Team Duga. À 18h45, le meilleur moment du journal moyen avec Adrien Aiguin. Ne ratez pas ça tout à l'heure. Mais tout de suite, il était notre invité exceptionnel mardi dans Team Duga, Claude de Koh-Lanta, qui a marqué tous les fans de sport privés de compétition pendant le confinement. Ils ont regardé la télé et l'émission de TF1 et ils ont adoré Claude de Koh-Lanta, à commencer par les membres de la Dream Team, Christophe Dugarry, Eric Dimeco et Franck Lemaire. Alors, Claude est avec nous, donc. Claude, je mets la révélation de Koh-Lanta, donc, qui a terminé troisième de l'édition qui s'est achevée vendredi. C'était donc ton troisième Koh-Lanta. Tu es le recordman d'épreuves individuelles remportées. 17, c'est ça, sur les 39 que tu as disputées. Donc là, on parle de phénomène physique. Est-ce que c'est digéré de ne pas avoir gagné ce Koh-Lanta?
À partir du moment où je tombe et que je sais que je suis pas pris, 2 heures après, je suis déjà passé à autre chose.
Est-ce que quand tu tombes, tu te dis j'ai perdu?
Évidemment, je me dis j'étais conditionné. Il reste toujours 5% de chance de se dire elle va quand même me choisir, mais 95%, je sais que j'ai perdu l'aventure.
Parce que c'est son ami et voilà.
Bah oui, parce que si elle veut gagner, elle a fait le choix logique. Et évidemment qu'il fallait qu'elle choisisse Inès pour gagner.
Oui.
Non, ce qui est, oui, ce qui est juste décevant, mais ça fait partie du jeu. Donc, moi, je juge pas la tactique, la conspiration fait partie de Koh-Lanta. Il faut
être côté,
la stratégie. Le seul truc, c'est que Nawel avait mis sur le côté sportif
et
le mérite sportif en avant tout au long de l'émission. Et puis et voilà. Mais pour elle, quand tu es à sa place, tu fais la même chose si tu veux gagner. Si elle se fait la finale contre Claude, elle est mal, peu cher.
Évidemment. Le truc, c'est que c'est pour ça que je pense que Claude est apprécié et qu'il y a eu beaucoup de retours cette saison. C'est que du début jusqu'à la fin, il a une ligne de conduite. Il a quelque chose au mérite. Si on lui pose la question, là, maintenant, que je dis, si tu avais gagné les poteaux, qui t'aurais choisi entre Noël et Inès? Moi, je pense que si tu aurais choisi Inès, tu aurais gagné, tu prends Noël. Ça a plus de doutes.
Évidemment, j'ai plus de doutes sur si je prends Nawel, mais j'étais dans l'optique vraiment. J'ai été présenté comme héros. Je suis venu comme héros. J'ai défendu les couleurs des héros. J'avais vraiment cet objectif d'aller au mérite avec le plus fort. Et dans cet état d'esprit dans lequel j'étais, pour moi, c'était Nawel que je choisissais. Et je pense que réellement, en plus, j'avais quand même mes chances. C'était serré, mais j'avais mes chances.
En tout cas, ça prouve que tu es grand, même dans cette édition, parce que tu vas jusqu'au bout contre ton plus grand ennemi.
Je me suis fait démonter par ma femme.
Du gars.
Non, moi, ce qui m'impressionne, pour tout te dire, c'est j'ai pas souvenir qu'un personnage public, parce que aujourd'hui t'es un personnage public, Claude, fasse autant l'unanimité sur de tous les jeux que l'on peut voir à la télé, que ce soit télé-réalité ou pas, enfin tout le reste. J'ai rarement vu ça, moi, un tel impact.
On peut essayer de l'expliquer, ça.
Après, la période de Covid a joué pour l'émission, quand même.
Exactement. Ouais, mais a changé et elle va changer encore plus, là, Claude. Ça va être fou ce que tu vas vivre.
Ah, je suis pas sûr.
Je pense réellement que dans cette période difficile que les gens ont traversée, ils ont vu des gens lambda. En fait, moi, je suis une personne normale qui représente le panel qu'on a en France. Et ils m'ont vu m'arracher, ils m'ont vu me dépasser et rien lâcher. Et c'est ce qu'ils avaient besoin de voir à ce moment-là pendant cette période difficile. Donc,
moi, je pense qu'il y a un autre truc aussi. C'est il y a tout un public de fans de sport qui était privé d'événements sportifs et qui s'est identifié à toi parce que tu étais le meilleur sur les épreuves et qui avait envie de voir leur champion aller le plus loin possible.
Mais non, mais c'est pas. Alors, moi, je partage pas du tout cet avis. Je suis désolé. Non, parce que je pense que c'est pas. À travers ces 17 victoires, même si elles sont toutes fantastiques, il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois que c'est pas là qu'il a gagné le.
Pour moi, c'est les deux. Au début, on vient là parce qu'on n'a pas de sport, on va regarder Koh-Lanta. Et ensuite, effectivement, il y a le fait que ce soit le meilleur sur les épreuves et aussi qu'il donne des leçons de morale à plein de gens.
Mais c'est même pas des leçons de morale. C'est du recul. C'est-à-dire, c'est des gens qui mangent pas à leur faim, qui sont fatigués. Garder cette lucidité.
Oui, ces valeurs, tu veux dire aussi.
C'est ça qui a fait que Claude. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment où on pourrait tous se sentir un peu énervé parce qu'on n'a pas bouffé, parce que l'autre il nous a gonflé, parce qu'il y a une stratégie de l'un, de l'autre, rester droit dans tes bottes, rester serein, tranquille, et puis amener quelque chose au jeu, et puis expliquer aussi aux jeunes que ce qu'il faut faire mieux, faire des choix, donner des petites leçons sans faire forcément la morale, parce que s'il avait fait la morale, ça serait revenu comme en pleine gueule, comme un boomerang.
Ah, il l'a fait un peu quand même.
Oui, il l'a fait quand ils sont régis.
Alors il y a
mais c'est pas
Régis.
La morale.
En gros,
ça joue contre lui en plus.
Régis, c'est celui qui trahit tout le monde et en gros tu lui dis je vais faire la même chose. C'est ça.
Oui, évidemment. Comme je l'ai expliqué, on m'a présenté, je suis venu avec un rôle de pour aider, pour avancer et pour accompagner les nouveaux. Et à un moment donné, ce qu'ils disent me convient pas parce que je sais qu'à un moment donné ça va retomber contre eux. Ils vont se retrouver entre eux et ils vont aller contre leurs convictions. Donc en fait à ce moment-là j'essaie de leur montrer et c'est pas calculé parce que c'est vraiment durant le déroulement de l'aventure qui se fait au fur et à mesure que les décisions elles se prennent. Et donc la morale elle n'était pas voulue. D'ailleurs si j'avais vu tous les retombées qu'il a eu négatives, peut-être que je me serais abstenu. Mais c'est clair que voilà, c'est un moment aussi je me suis senti un peu plus en sécurité, libéré, parce que je gagnais et ça m'a permis.
Il faut savoir Jean-Louis quand même que ça a tellement pris les gens qu'il y a eu des débordements.
Évidemment,
Denis a été obligé de recadrer un petit peu sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu des menaces
comme
de
pour
mort.
Le foot, comme les supporters de foot.
Il y a eu des messages sur le Régis. Il est employé dans un magasin.
Il a été.
Et donc l'enseigne recevait aussi des menaces, etc.
Ah ouais.
Donc
ils ont même fait un communiqué aussi. pour se détacher de lui. Donc
Sam est parti.
Est-ce que tu vas t'encadrer, t'entourer justement? Parce que moi, pour moi, ta vie elle va changer aujourd'hui partout où tu iras. Et d'ailleurs, je pense que c'est encore le cas. J'imagine que quand t'es arrivé à la RMC ou à BFM, il y aura des gens qui te demandent des autographes. Voilà. Non, mais c'est la réalité. Est-ce que tu vas penser à t'encadrer? tu vas penser à t'encadrer, quelque chose, enfin vivre.
Après, t'es pas tout jeune non plus, Claude. On peut le
rappeler. Moi, j'ai pas 20 ans. Je cherche pas la lumière. Je suis content dans ma vie. J'ai tout ce qui me convient. Ce qui arrive, c'est du plus. Bien sûr, je sais que ça monte un jour, ça redescend. Je suis très à l'aise avec ça.
Et tu vas pas écrire une chanson, tu vas pas chanter.
Alors là, si tu m'entendais chanter, je poserais pas la question, Franck.
Tu vas pas arrêter de travailler non plus.
Non, justement, parce que j'ai un très bon patron. Je suis très bien dans ma vie toujours. J'ai du temps, donc je peux le mettre à profit pour différentes choses.
Tu fais quoi, Claude, dans la vie ?
Je suis chauffeur de maître et je travaille pour une personnalité étrangère. Et donc voilà. Voilà.
Eric, par contre, fais attention. Alors nous, avec Eric, on a pas trop subi ça. Franck, un petit peu plus, mais fais attention. Toutes les sollicitations, les maîtresses, et tout ça, c'est compliqué. Fais très attention.
Je suis avec quelqu'un. On est paxé. On a des enfants. Tout va bien. Ça fait 10 ans.
Combien de temps tu es resté là-bas ? Combien de temps ça dure cette aventure ?
Sans qu'elle écoute.
Je suis pas sûr en plus, pas sûr. Elle est occupée à la maison, les deux gamins, c'est compliqué.
Le dernier, il a un an, quoi, c'est ça à peu près.
Non, et le dernier, il a 4 mois et demi. Franchement, pour tout dire, là, c'est long. Là, c'était 32 jours.
32 jours.
Après, oui. Normalement, c'est
donc 32 jours sans voir le loup, rien du tout, quoi.
Voilà, j'ai fait. Tu vois, mon fils était conçu juste avant de partir. Donc c'est pour ça que je l'ai appris pendant l'émission.
Tu n'as pas conçu de petit là-bas, non.
Et tu vois, il le fait en venant. Il n'y a pas de libido là-bas.
Pour dire, voilà, les libido, elles n'existent pas. Hein. Non, pas tu penses qu'à bouffer, quoi.
Alors juste, il y a l'épisode quand même avec Inès. On parlait des recadrages qui ont marqué aussi. Donc il y a l'épisode avec Inès où sur une épreuve, en gros, tu dois lui donner tes sacs. Enfin, tu dois donner tes sacs à quelqu'un et en gros, tu lui fais là aussi une petite leçon, une petite morale pour qu'elle comprenne. Tu nous racontes.
Oui, c'est vrai. À ce moment-là, la veille au conseil, elle précise que ces derniers jaunes, ils le joueront au mérite, mais sur la dernière épreuve. Alors le mérite sur la dernière épreuve, moi je suis un peu contrarié parce que tu peux te louper sur une épreuve. Et dis donc, non, mais on est tous cool avec ça, ça sera comme ça. Ok, là, le lendemain, donc à un moment donné, je suis éliminé, j'ai 28 kilos. Et là, je dis à Denis, attends, j'ai une idée. Et je dis, bon, bah par rapport à hier, qui est arrivé la dernière, parce que vous vouliez jouer au mérite, donc bah c'est toi Inès, bah c'est sur toi que tombent les sacs, donc tu vas prendre 28 sacs. Et puis là, tu pourras pas prendre le départ, tu vois.
Elle est dégoûtée.
Et franchement, je la cible elle en lui expliquant, mais en fait, je cible tous les jaunes.
Oui.
Donc forcément, c'est elle qui prend. Elle a un caractère assez impulsif, donc tout de suite elle monte.
Oui, elle s'est énervée, mais tes arguments étaient implacables en fait.
Oui,
c'est ça aussi qui fait la différence, c'est qu'à chaque fois on sent que chaque décision est argumentée, réfléchie.
Mais c'est comme un gamin, tu vas lui dire 10 fois, mets pas tes mains dans la porte, il va les mettre jusqu'au jour où il va se faire mal, il va comprendre. Donc là en fait c'était la même chose, tu pouvais lui dire 10 fois le mérite, elle l'a pas compris, et ben là le mérite tu le comprends avec les sacs.
Est-ce que je peux poser une question sur le
Bordeaux, Claude, il va arriver tout ça.
Ou dans un centre de formation.
Une question un peu pipi caca, vous allez aux toilettes, il n'y a pas de toilettes.
Mais excuse-moi, t'as fait
Il s'est chié dessus pendant une semaine.
J'ai fait 5 jours, tout était bloqué. Mais comment vous définissez un endroit pour...
Non, il n'y a pas de zone prédéfinie. La seule règle principale qu'il faut bien avoir en tête, c'est pas dans les chemins, s'il vous plaît.
Ah ouais.
Éloignez-vous. Et parce que les filles, généralement, elles s'éloignent un peu plus, c'est plus compliqué. Donc, non, il n'y a pas. Faut juste faire attention.
Mais attends, tu nous as dit que tu as appris que tu allais être papa une nouvelle fois sur le.
Oui, en off. Oui, donc c'est pas. Ça n'a pas été divulgué.
Ah, voilà, c'est ça.
Tu avais vérifié si tu étais là.
Tu avais calculé les mois.
Tu avais calculé.
Ma femme qui a calculé.
D'accord. Non, parce que là, il y en a autour de la table. Là. Ils ont eu des petits 9 mois après une grande compétition. Ils n'étaient pas à la maison. Hein.
Ressemble, je suis content.
Ah, ouais, donc c'est bon, ok. Mais ça a dû faire un choc, non c'était...
Oui, effectivement. C'est après le confort où Théora, je ne sais pas si vous vous souvenez, offre son confort de chocolat à tout le monde. Ouais. Et là, on me prend. J'ai quelqu'un
qui l'a viré juste après.
Ouais, tu vois un peu comment c'est cruel le jeu.
Il a fait exprès aussi, il a pas sorti son collier. Excuse-moi.
Ah ouais, il a tout fait pour se faire sortir quand même.
Et manger, moi je mangerai demain. C'est ça qui s'est passé.
Ouais, t'as raison. Ouais.
Et au final, non. Donc on me dit, Claude, t'es convoqué pour le médecin. Et bon, moi, c'est vraiment ce truc, t'as pas envie de voir le médecin là-bas parce que tu sais que c'est lui qui peut t'arrêter durant le jeu. Et je dis, non, mais j'ai pas voir le médecin. Mais si tu viens voir. Et là, on me montre le téléphone avec le mail de ma femme qui écrit à la production pour connaître un peu, voilà, ma position parce que c'était pas décidé réellement qu'on en fasse un deuxième. Donc là, forcément, bah, je tombe en larmes, je le prends Julien dans mes bras, et d'apprendre que tu vas être papa à l'autre bout du monde, si tu vois, ça resterait un souvenir.
Oui. Et si tu es, il y en a vu Alexandra partir, enfin, on a vu d'autres personnes partir ou pas revenir, mais il y a certains sont revenus d'aller voir le médecin. Ils bouffent hein, quand ils sont
quand en infirmerie. Oui, alors quand t'as un problème médical, quel qu'il soit, t'es en observation. L'observation, ça veut dire que t'as un lit pour passer la nuit. T'as généralement voilà un petit bol de riz blanc et peut-être une petite perfusion. D'accord. Voilà, après ça tout dépend de ce que t'as, mais c'est la règle. Donc ils n'ont pas un menu gargantuesque non plus.
C'est un conseil pour Jean-Louis en fait. Si, hein, si jamais tu vas pas bien avec ta faim, tu fais croire que t'es malade.
Ah, mais attention, tu peux prendre le risque de te faire sortir aussi.
Moi, je serais trop fort à Koh-Lanta.
Non mais il y en a un qui est génial. Par contre, expliquez-moi, Ahmad, comment il peut faire Koh-Lanta le mec qui sait pas nager? C'est lui Deschamps, c'est lui.
La stratégie, d'entrée la stratégie était posée.
Non mais c'est énorme. C'est fou le mec. Il est incroyable. Comment c'est possible d'arriver de se dire je vais faire ce jeu, j'en rêve.
Il est de Bordeaux en plus, non?
Il est de Lyon.
Le casting, il est incroyable.
Ouais, c'est pareil. Juste, t'en feras un ou pas?
Tout est possible, oui. Moi, je suis, comme je l'ai dit, après, plus le challenge sera relevé et plus je serai motivé. Maintenant, c'est sûr que ce sera difficile toujours de faire aussi bien que ce que j'ai déjà fait, mais ce sera justement le challenge dans le challenge.
Oui, c'est prendre le risque qu'on t'éteigne ton flambeau, ce qui n'est jamais arrivé
encore.
Ouais,
mais ce sera une expérience également, tu vois. Il y a plein de choses que j'ai pas connues.
Si on ramène que des champions, Franck Leboeuf, Théo.
Ah, ce serait mon rêve, voilà.
Non, mais Franck, c'est pas un champion de Koh-Lanta, excuse-moi quand même. Il a fait 5 jours.
C'est un grand sportif. J'ai fait 5 jours, j'avais un accident de voiture 2 mois avant, j'avais très mal au dos, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Sinon, j'aurais essayé de continuer, mais j'étais pas. De toute façon, j'étais bien sûr que
j'étais pas. Après, je rejoins Franck, c'est dur et des fois à la télé tu le ressens pas forcément la difficulté, pas autant que sur place.
Claude reste avec nous encore pendant quelques minutes, on revient dans un instant dans Team Dugas avec le journal moyen, à tout de suite.
RMC 18h-20h,
le meilleur de Team Dugas.
Après 19h, ne ratez pas ça, on reviendra sur Marseille-Montpellier en 98. L'OM de coach Courbis, de Christophe Dugarry, menait 4-0 à la mi-temps face à Montpellier et qui va s'imposer finalement 5-4. Un moment marquant pour tous les supporters marseillais qu'on se remémore après les infos de 19h. Tout de suite, c'est le journal moyen.
À la une du journal moyen de Team Dugas aujourd'hui sur RMC, Thiago Silva va beaucoup manquer au petit Vincent Moscato. Un peu de chanson si on a le temps dans le journal moyen. Et puis Adil Rami, un ami de la famille de Team Dugas, nous fera peut-être un petit coucou, il est en pleine forme, Adil. Ah. Vous écoutez RMC, c'est le 334e journal moyen de l'histoire de Team Dugas.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Team Dugas.
Adrien Aigouin.
D'abord les archives, rappelons d'abord que nous avons avec nous sur RMC deux héros de Koh-Lanta, Claude le chouchou des Français et Franck Leboeuf. Et rappelons que vous avez le même palmarès, vous n'avez jamais gagné Koh-Lanta. Bravo Franck, à égalité avec Claude finalement. En revanche, tu n'as pas gagné la Coupe du Monde 98. Ah. Donc Franck a un temps d'avance sur toi, Claude. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, Franck a bien participé à Koh-Lanta en 2010, donc il y a 10 ans. J'ai même l'extrait, Francky, Denis Brognard qui annonce en voix off l'élimination de Franck Leboeuf. Franck qui apparemment, donc tu l'as dit, n'était pas au top.
Incroyable, le champion du monde de 98, celui qui a gagné toutes les coupes et mis sur la touche par ses camarades. Les sportifs ont préféré se séparer du concurrent affaibli plutôt que du fautif.
Voilà, plutôt que de l'autre.
J'avais un peu arrangé ma sortie en fait.
Voilà, c'est vrai.
Ça avait marre surtout. Déjà, nous c'est dur, alors imagine là-bas Koh-Lanta sans tout.
Sans transition, les amis, de Koh-Lanta, on passe à l'instant. Adil Rami, Adil.
T'es pas content de me voir?
J'adore, si. Tu fais le show.
Ah, je suis ton clown alors.
Des nouvelles de notre copain Adil Rami qui est vraiment en pleine forme. Adil est un jeune homme qui vit avec son temps. Il est présent sur Twitch, un réseau social sur lequel on joue à des jeux vidéo. C'est public, tout le monde voit la partie que tu es en train de réaliser. Il y a une caméra sur toi, tu peux commenter. Il est en pleine partie de FIFA 20. Il est en train de perdre son match. Écoutez sa réaction. Adil, c'est comme ça qu'on l'aime, sans filtre.
Bonjour.
Kylian Mbappé. Le panier, là, Kylian, le danger.
Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. On dirait que c'est Rudy Garcia, l'entraîneur.
Oh. On n'a pas vraiment cherché la surface.
Mais que s'est-il passé? On peut réécouter rapidement, s'il vous plaît?
Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. On dirait que c'est Rudy Garcia, l'entraîneur.
Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'âme. On dirait que c'est Rudy Garcia, l'entraîneur. Son coach historique.
C'est mal fini à Marseille aussi.
Enfin, c'est mal fini, mais bon, il a bien aimé au fond. C'est un petit taquet comme ça.
C'est marrant. Il est marrant.
Il sait qu'il est filmé quand même.
Oui. Ah oui, c'est tout.
Il est dur.
C'est une drôle de manière de montrer que tu aimes quelqu'un quand même.
Regarde toi, Eric. Au fond, t'aimes du gars, mais bon, parfois, ou... non. Mauvais exemple. Sans transition.
C'est pas aussi dur, heureusement.
J'essaie de le remettre dans le droit chemin quand il est connu.
Exactement. Oui,
il n'a pas tout à fait tort non plus, quand même, sur le fond.
Ah, bah sur le fond, il a peut-être raison.
Il a plus tort avec Rudy Garcia.
Non, c'est vrai. Voilà, et là, il y a un ange qui passe. Sans transition.
Ouais, c'est ça.
Comme quoi, personne ne confirme, mais tout le monde est d'accord.
18h, je passais de 51 minutes sur AMC. C'est l'instant, Thiago Silva.
Scuse.
Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain. Thiago Silva va manquer à Vincent Moscato sur RMC. Depuis la Coupe du Monde 2014, notre Vincent appelle son Thiago Silva au Charlo, le joueur qui pleure, qui chiale. En novembre 2018, Paris gagne un match très important, c'était en poule, Jean-Louis, face à Liverpool. Hein. Ouais. Décisif pour la qualif.
Oui.
Thiago Silva est énorme sur ce match. Vincent nous dit, allez, je vais faire mon mea culpa. Je vais faire un coup de cœur pour Thiago Silva dans le Super Moscato Show. On est d'accord, on fait une réunion avec Eric à l'époque, avec Pierre Dorian. On dit ok, bah super, comme ça, ça change un peu les choses. On commet une erreur au moment du direct. Avant de donner la parole à Vincent, on lui passe l'interview de Thiago Silva après Liverpool.
Il réveillait mon fils qui dort pour l'école demain matin. Il disait, mon petit, on va pas aller gagner ce soir. Ah. C'est magnifique, on vous sent ému. C'est difficile, c'est difficile.
Ah donc là, énorme erreur de la rédaction du Super Moscato Show et de RMC. Vincent se prend la tête à deux mains. Et en fait, c'est parti pour ce qui devait être à la base un coup de cœur pour Thiago Silva. Vincent,
on en a marre. Au Chialo, comment tu vas aller à la guerre avec l'autre qui a une larme quand il gagne un match de poule? Faut qu'il contre, s'il passe en demi-finale, j'attends de le voir chialer contre Quevilly en demi-finale de la Coupe de France. J'attends de le voir chialer. S'il gagne, écoute-moi, il chiale à Quevilly en quart de finale. Il chiale là, écoute-moi, je vais, il joue, mais toi, Quevilly, j'y vais au bord de la main courante, parce que c'est des terrains champêtres. Je me mets comme ça, il passe, je t'y fous le même plat. Au moins, tu vas chialer pour quelque chose.
Vous savez ce que c'est dans le langage moscatien, une main plate. C'est une petite caresse. C'est pas fini, parce que les coups de cœur de Vincent, ça dure longtemps en général. Il a un cœur énorme, mon Vincent. La suite.
Lui, c'est le style de mec. Et là, c'est ça. Et les gens, ils sont là, ils disent oh, il est tendre. Oh, il est tendre. Il fait un baby-foot. Il gagne, il chiale. Il joue au billard. Il joue au billard. Il chiale, il prend trois numéros au tiercé, c'est-à-dire 12 euros. Allez, il est le plus beau jour de la vie. Est-ce que moi, quand je rate, moi, d'avoir fait une bonne émission, comme pratiquement tous les jours de la semaine, est-ce que je rate? Je dis à ma fille, c'est important, parce que tu vois, chérie, aujourd'hui, ma fille, je fais une bonne émission. Yo, et je me vais pisser, à pleurer partout. Ah, non, j'en ai marre de ce mec.
Thiago Silva, pour la petite anecdote, on a appris, nous, parce qu'on a des infos partout, que Thiago Silva, au camp des loges, il y avait RMC Sport News qui était diffusé. Thiago Silva aurait vu la scène. On n'a pas sa réaction, mais bon, voilà.
Mais il a chialé.
Pour conclure, très court, la façon dont un capitaine en foot, selon Moscato, doit se comporter.
Et il est capitaine de cette équipe. Écoute-moi, un capitaine avec une cigarette. Tu dois le brûler, comme ça, il ne doit rien dire. Avec le club. Tu mets un doigt dans l'œil, il fait comme ça, il dit j'ai pas mal. Il c'est moi le capitaine du PSG, j'ai pas mal.
Avec une cigarette sur le bras,
bien sûr.
Tu lui dis rien, t'as pas mal. Voilà, Vincent Moscato et Thiago Silva.
Voilà pour le journal moyen d'Adrien Aigouin. On revient juste après les infos de 19h avec le fameux Marseille-Montpellier. La victoire 5-4 dans les arrêts de jeu des Marseillais, un moment marquant pour tous supporters marseillais qui étaient présents à l'époque, soit devant la télé, soit au Vélodrome. À tout de suite.
RMC 18h-20h, le meilleur de Tim Duga. RMC 18h-20h, le meilleur de Tim Duga.
Depuis que les matchs sont arrêtés en France, dans la deuxième heure de Tim Duga, après 19h, on se remémore des matchs marquants dans l'histoire du foot. On va revenir dans une seconde sur Marseille-Montpellier, la fameuse victoire 5-4 des Marseillais. Et pour une fois, on va donner la parole au Montpelliérain. Pascal Baïs, défenseur à l'époque, sera notre invité. Vous entendrez ce moment à 19h30. Il y aura le blind test également à 18h45 pour terminer l'émission. Mais avant cela, on se replonge donc dans cette soirée d'août 98. Les Marseillais connaissent une première mi-temps cauchemardesque avant de s'imposer 5-4. On s'est remémoré ce match incroyable avec les acteurs de la rencontre, l'entraîneur de l'époque, coach Courbis, l'attaquant remplaçant au coup d'envoi Christophe Dugarry, mais également Franck Leboeuf et Julien Cazard. Alors, je vous emmène donc le 22 août 98. Voilà, les champions du monde 98 étaient sur l'été, la fin de cet été incroyable. Hein. Là, vous en avez fait des choses cet été-là, n'est-ce pas, Francky?
Ah ouais, c'était plutôt sympa. Ouais.
C'est ça. Et donc, la fin de l'été.
Du jet ski.
Ah, il y a eu beaucoup de jet ski, oui. Ça, c'est vrai, je me souviens.
Il y a eu une petite affaire.
Avec Fabien Barthez, non? C'était quoi l'histoire du jet ski?
Moi, j'ai souvenir. Il y avait l'affaire du jet ski, il y a eu l'affaire du bateau qui a explosé à notre bateau.
C'est pas quoi, ça, le bateau?
À Saint-Tropez. Non, c'était pas ça, Christophe?
C'était pas sorti.
J'étais pas, toi?
Je sais pas, non, j'étais pas, non.
Ça n'a pas été rendu public, ça, pas sorti.
C'était pas à Saint-Tropez. Je crois, avec le présentateur Nagui, où il y avait eu un problème qui n'était pas du tout de leur faute, puisqu'ils ne. Pas eux qui pilotaient, ou on peut dire qui s'occupaient du bateau, du gros bateau. Donc, il y avait une petite histoire.
D'accord, très bien. Bon.
C'est vrai que nous, avec Jean-Louis, les accidents de hors-bord,
sport, on en a peu. C'est pas parce qu'on conduit bien. Hein.
Oui, c'est pas les.
C'est pas en bord qu'un yacht.
Deux yachts en collision, on en a pas vu souvent, nous.
Une fois, on s'est fait entrechoquer avec des pédalos, mais c'est pas mortel.
Une fois, j'ai vu un bateau mouche ne pas passer un pont, c'est tout, quoi. Voilà, on va pas plus loin, quoi.
C'est au max.
Bon, on est donc le 22 août 98. C'est un match de Division 1 qui donc met aux prises le Marseille de coach Courbis et Christophe Dugarry au Montpellier de pas mal de joueurs sur lesquels on va revenir. C'est un match de Ligue 1 de début de saison au mois d'août. C'est la troisième journée, hein, il me semble, coach. Oui, tu vas me confirmer ça.
Et Montpellier, tu viens de le dire, si on regarde la composition de l'équipe, Montpellier a aussi une belle équipe.
Exactement. Je vais les donner les compos. Juste avant, on précise que coach, il y a quelques jours, tu as revu ce match donc qui a été diffusé chez nos confrères de la chaîne L'Équipe. D'ailleurs, à la base, quand on a lancé ces débriefs de matchs historiques, on s'est dit Marseille-Montpellier, on s'est déjà raconté pas mal de fois, on n'a pas besoin de le refaire. Mais après la diffusion de ce match, beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs de Team Duguay nous ont dit il faut quand même le refaire, etc. Donc on va le refaire. Et donc coach, tu l'as revu en intégralité.
Mais je ne l'avais pas revu, c'est-à-dire oui, évidemment, j'avais revu le résumé, les buts, mais je n'avais pas revu en entier, j'avais jamais eu le temps. Et là, comme on avait le temps, j'ai dit tiens, je vais regarder un petit peu du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé déjà en première mi-temps pour qu'on puisse être 4-0 à la mi-temps? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'a fait Montpellier? Et après, voir un petit peu dans la deuxième mi-temps ce qui s'est passé. Et c'est vrai que je me suis aperçu de certaines choses que j'avais pas vu. Par exemple, on fait un gros match dans la deuxième mi-temps. Des garçons comme Blondeau, Eric Roy, qu'on parle un petit peu moins que certains autres joueurs, je les ai vus énormes.
Ouais, ouais. Alors on y va sur les compos justement, t'as commencé à égrener certains noms. Donc Marseille, Porato est dans les buts, Blondeau, Blanc, Domoro, Galas pour la défense. Galas jouait latéral, donc j'imagine. Gauche, voilà. Au milieu de terrain, Daniel Bravo, Eric Roy, Jocelyn Gourvennec et le trio d'attaque, Robert Pires, Florian Maurice, Fabrizio Ravanelli. Et en face à Montpellier, donc, Bruno Martini dans les buts, Serezoum, Biles, Sylvestre et Dos Santos derrière, Fugier, Sauzet, Rouvière et Laurent Robert, et devant Xavier Gravelaine et Bakayoko. Voilà pour l'équipe de Montpellier.
Gravelaine qui était chez nous l'année d'avant.
C'est ça. Et Bakayoko qui sera chez vous l'année d'après, non?
Voilà.
Dos Santos, il arrive pas longtemps après, je pense. Hein. Oui. Dos Santos, il est pas à Marseille après?
Oui, oui, il est à Marseille, effectivement, sûr, hein. Après, quelques années après. Et donc, Dugas est remplaçant. Qu'est-ce qui s'est passé, Dugas?
Ah ben je sais pas, je devais pas être en forme, demande à Roland, je sais plus, j'avais dû faire une préparation, non mais c'était le troisième match peut-être, la Coupe du Monde, j'avais été blessé aussi après la Coupe du Monde, je sais plus, mais bon c'était une reprise aussi pour moi j'imagine, si c'était le troisième match alors que je m'étais claqué en Coupe du Monde, c'était peut-être ça aussi, je sais pas, je me rappelle pas, demande à Roland.
Tout simplement une gestion d'effectifs, ouais. On avait fait un recrutement à l'intersaison où on avait 6 joueurs importants pour 4 postes. C'était la troisième journée. Il y avait eu 2 journées avant, je crois, qu'on balance et qu'on va gagner à Metz. Et donc, je fais tourner. Porato, c'est son premier match au stade Vélodrome, puisqu'il vient de signer à l'intersaison. Alors, c'est vrai que c'est toujours les mêmes discussions. On avait eu l'occasion de discuter avec Dugas lors de la mise au vert la veille, puisqu'il m'avait demandé comment je voyais les choses. J'ai dit, tout simplement, bon, c'était ma façon de communiquer. Tu n'es pas titulaire d'entrée, tu seras titulaire dans la deuxième partie du match. Voilà, c'est tout.
Moi, le titulaire à la 50e, c'est énorme.
Et j'ai tenu parole, il a été titulaire dans la deuxième partie du match.
Merci, merci.
Qu'est-ce que tu vas rajouter à ça?
Il se marre du gars parce que tu l'as entendu plein de fois.
Non, mais j'ai entendu.
Sans plaisanter, c'est du gars.
Oui, déconne pas, Roland, s'il te plaît.
En ce qui concerne la prudence de ma part, c'est aussi une certaine fragilité de Dugas, parce qu'il n'y a pas seulement les souvenirs de la Coupe du Monde.
Enfin, on dit les choses.
Il y a les souvenirs de la saison d'avant, où on fait un super match à Toulouse, et lui, le premier, et paf, une fois de plus, c'est ischio. Dugas, on plaisante, mais il avait quand même un gabarit sur le plan athlétique pas très courant. 1m90, très rapide, parce qu'on parle toujours de sa technique, qui existe aussi, de son jeu de tête, mais on néglige cette vitesse de course qui est très très rare pour un gars d'1m90, et moi toujours l'inquiétude ben de le faire jouer un peu trop longtemps ou un peu trop souvent. Donc je ménageais par prudence, peut-être une prudence stupide, mais c'était la raison.
Et voilà, du gars, tu vois.
Non, mais je savais aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y avait aussi de ça. Je me suis trop souvent blessé. Aussi, c'est vrai, aux ischio, j'avais un ischio, notamment droit, c'est assez fragile, ouais.
Alors, parce que du gars n'est pas là au coup d'envoi, le match se passe très mal, donc, pour Marseille. Hein. Puisque donc, on a l'impression que chaque attaque fait but.
On était tous claqués.
C'est ça. Le souvenir qu'on a, coach, c'est ça, hein, toi qui as revu en intégralité, c'est qu'à chaque fois que Montpellier attaque, ça fait but. Hein. Sur le
bilan, est-ce que tu m'as coupé sur
vas-y,
le bilan la première mi-temps, je crois que Montpellier est dangereux 6 fois. Il marque 4 buts. Sur les 4 buts, il y a 2 fautes individuelles de Porto qui joue son premier match au stade Vélodrome. Là,
tu parles du but de Robert peut-être et le coup franc de Sauzé, voilà. Qui sont un peu pour Porto.
Voilà, donc, et là, bah, c'est quand même difficile de trouver des solutions. Mais vas-y, continue.
Donc Bakayoko ouvre le score à la 15e. Ensuite, donc Laurent Robert, Franck Sauzé, ce fameux coup franc que personne ne touche et qui termine au fond. Coup franc complètement excentré. Et après, en contre-attaque, Bakayoko, donc, on est à la 35e. Et là, il y a 4-0. Et donc là, coach, comment on fait dans ces cas-là?
4-0, déjà, on sort logiquement sous les sifflets. Bon, c'est même pas que tu es inquiet, tu as tout simplement honte. Et donc, je réfléchis un petit peu à ce que je vais pouvoir dire à la mi-temps. Et à la mi-temps, je me vois pas dire grand-chose, si ce n'est que on va faire le maximum pour gagner la deuxième mi-temps, pour pouvoir aller qu'à la troisième journée. Et bon, on pourra, disons, réfléchir que la première mi-temps aura été un accident, qu'on aura l'occasion de réparer. Donc après, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute un petit truc là, puisque je dis, dans cette région, il y a un sport qui s'appelle la pétanque. Il y a des fois des équipes qui perdent 12-0 et qui gagnent 13-12, mais ce sont les équipes qui ne vont pas boire l'apéritif tout de suite. Ils jouent leur dernière chance avec la dernière boule, et des fois ça se termine par 13-12. Et c'est pour ça, bon, je veux pas tout anticiper, qu'à la fin du match, je fais pas de résumé, on arrive dans les vestiaires et je dis 13-12.
Ah,
t'imagines,
okay,
que du gars, pour le convaincre de faire un bon match, faut pas lui parler de foot, faut lui parler ou pétanque ou golf ou apéro. C'est terrible, ou apéro.
Tu rentres à quelle
heure de jeu?
Les carottes sont vraiment cuites, qu'il n'y a plus d'espoir,
Quand tu rentres, t'es content de rentrer ou...
Je suis content.
Qu'est-ce qu'il fait, Roland? Ça sert à quoi?
Ah non, mais je veux pas rentrer.
Ah ouais.
Ah mais je veux pas rentrer, ça c'est clair. Je suis en train de m'échauffer derrière le but. Il y a 2-3 fatigués qui gueulent dans les mégaphones, qui veulent leur casser les bagnoles, qui vient avec moi leur casser les bagnoles. Et alors là, les dons d'oiseaux qui circulent, les machins, les chèvres.
Ah ouais, t'entends tout ça là. Ouais.
Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais rentrer, me retrouver dans ce truc 4-0. Non, je veux surtout pas. Et puis, il faut y aller quoi.
Alors, on retrouve dans le détail du coaching, effectivement, de coach Courbis. Donc, juste avant, Francky, t'as déjà pris 4-0 après 35 minutes.
J'avoue que non. J'ai morflé aussi par moi, mais là, ça m'est arrivé, moi, de gagner 3-0 ou 4-0 à la mi-temps, ouais. Et où tu te dis, mais c'est bon, on arrête le match, qu'est-ce qu'on va courir encore, on aurait un match dans 3 jours, ouais, c'est bon.
Ce qui est rare, c'est en plus à domicile.
Oui, en plus.
Et ça, ouais, non, je pense que c'est plutôt rare. Je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui ont connu ça.
Première décision.
Après,
t'aurais dû signer au PSG.
Avant de parler à deuxième mi-temps, il y a aussi ce qui se passe à la mi-temps quand on se croise dans le couloir avec Loulou et Michel Mézi.
Alors effectivement, ça c'est une image qui a fait le tour des années après, c'est que donc tu le croises, Loulou Nicolin, et je sais plus ce qu'il te dit, mais en tout cas toi tu lui réponds attention qu'on gagne pas 5-4.
C'est-à-dire que bon, ça me contrarie dans le sens que bon, vous le connaissez les dictons, il vaut mieux faire envie que pitié. Et quand je sors des vestiaires, il y a une quinzaine de mètres, il y a Loulou et Michel qui sortent du vestiaire de Montpellier, je me mets à leur place, ils ont un grand sourire et tout, nous on a honte, et Loulou, dès qu'il me voit, ben, par politesse, donc il s'arrête de sourire, pareil pour Michel Mézi, il me prend par le cou et il me console. Comme si le match était terminé, mais je me mets à sa place, il me console en me disant, bah, ben, ça va, c'est un accident, machin, etc. Et moi, ça m'énerve, ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? On va gagner 5-4, mais j'y pense pas une seconde qu'on va gagner 5-4.
C'est juste pour lui répondre.
C'est le réflexe. Et il me dit, ne le dis pas en rigolant. Je dis, mais je ne le dis pas en rigolant. Hein. Et ça se passe comme ça, et chacun va sur son banc.
Et d'ailleurs, il te regarde avec, j'allais dire, enfin, tu lui fais forte impression. Il dit, ah, lui, il en a entre les jambes, etc. Ça, c'est une belle réaction. Enfin, voilà, il est admiratif. C'est ça le mot que je cherchais aussi de cette réaction.
Je me rappelle avec son langage, particulier. Il se croise avec Robert Louis Dreyfus et puis il fait le geste avec la main. Il dit, il a dû se faire une belle branlette, le président.
Ah oui, très bien. Très bien. Et Robert
Louis Dreyfus, il sourit un petit peu gêné. Il dit, oui,
ça, tu m'étonnes. Bon, le coaching quand même, donc coach, tu vas pouvoir un peu nous expliquer pourquoi tu fais ça. À la mi-temps, donc, tu lances Titi Camara à la place de Gourvennec. Il faut rajouter un attaquant. Enfin, c'est...
Ben disons que c'était l'une des habitudes qu'on avait, puisque c'était pour moi un joueur très intéressant et très intéressant aussi comme joker. Et je m'imagine jouer avec. On avait l'habitude de jouer avec quatre offensifs, ce qui était déjà pas mal, plus un latéral qui montait, plus Laurent Blanc qui sortait souvent avec le ballon. Donc je me dis, attends, si on veut gagner la deuxième mi-temps, je vais pas mettre cinq offensifs tout de suite. Je fais pas rentrer Dugas tout de suite. Bon, c'est un choix. Après, c'est même pas un exploit, il y a un miracle qui se passe.
Si tu l'as dit donc, titulaire de la dernière demi-heure, il n'allait pas rentrer avant.
Et donc, je me dis, je vais terminer le match, ça je le sais à la mi-temps, avec deux numéros 9, Maurice et Fabrizio Ravanelli. Dugas, qui est meilleur à gauche qu'à droite, mais tant pis pour ce match-là, il jouera à droite. Titi Camara à gauche, c'est son bon côté aussi. Et Robert Pires derrière les deux numéro 9. Et un seul 6, Eric Roy. Donc, c'est inquiétant. Mais d'un autre côté, Montpellier, qui a fait une première mi-temps exceptionnelle, ben, la paye quand même en deuxième mi-temps. Ils ne sont pas capables de renouveler. Et nous, malgré ce, tu regarderas les images, et c'est là que j'ai vu des choses que je n'avais pas vues à l'époque, on se fait siffler, sous les insultes, on arrive quand même à ressortir le ballon depuis derrière, tac, 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 tranquillement, et quand on marque ce but à 4-1, il y a une réaction, c'est Florian Maurice qui va au sprint chercher le ballon pour se dire... Tiens, le match est pas terminé. Alors qu'en tout début de deuxième mi-temps, on a même failli en prendre un cinquième.
Oui, d'ailleurs, après donc ce premier but, Dugas, c'est toi qui mets le centre sur Florian Maurice. Oui, ouais. Et on a l'impression que t'es exactement dans l'état d'esprit dont tu nous parlais avant. T'as pas envie de rentrer. Et après, bon, tu joues bien sûr, mais après le but, tu te dis pas, allez, c'est bon, on va gagner 5-4 là. Tu vois, t'es en plus en retenue, quoi.
Non, mais après, il y a aussi, je suis pas forcément content d'être remplaçant, d'être le troisième aussi à rentrer. Alors déjà, tu rentres à la mi-temps, tu te dis, allez, bon, pourquoi pas, là, je suis le troisième, je crois.
Le deuxième.
Voilà.
Daniel, bravo.
Voilà, et le troisième, c'est qui rentre après?
Il n'y en a pas, coach, l'a gardé pour plus tard, ce changement.
Ouais. Et la vraie question,
je me dis, on me fait rentrer pour me faire rentrer, je me dis pas, on me fait rentrer pour changer quoi que ce soit. Donc, voilà, bon, les choses se passent bien sur le but que j'adresse à Florent Maurice. C'est un super ballon de Laurent Blanc dans la profondeur, où je crois que c'est Santos qui anticipe très très mal, il est pris dans la profondeur. Ouais. Voilà, donc c'est pas très très compliqué, j'invente rien. Après, c'est sur deux coups de pied arrêtés. Je peux pas te dire que j'ai la rage quand je rentre et je me dis, on va y aller. Voilà, j'ai un peu de réussite aussi. Sur deux coups de pied arrêtés, je mets ma tête comme j'ai l'habitude de la mettre.
Il y en a une qui ressemble au but contre l'Afrique du Sud.
Voilà, exactement.
Pourquoi t'as pas tiré la langue? Ouais. Pourquoi t'as pas tiré la langue pour dire voilà
juste devant coach
juste pour devant coach quoi
il faut que tu mentes un petit peu Christophe, il faut que tu crées un peu ta légende, il faut que tu crées ta légende en faisant croire que toi quand t'es rentré tu croyais que t'avais confiance, tu savais que t'allais marquer autant de buts et que vous alliez gagner, c'est comme ça qu'on crée des légendes. Toi t'es en train de dire non je sais pas, j'ai mis un but après j'en ai mis un deuxième, ça sent pas, si tu veux, ça fait pas rêver.
Mais ouais, mais c'est pourtant la vérité quoi, je peux
non mais c'est intéressant d'avoir ta vérité,
bien sûr. Pas la vérité, mon pauvre ami. Ils veulent rêver.
Et puis je suis pas un acteur comme toi, mon Francky. Je sais pas mentir.
T'as vu, Francky et Julien, ils sont pour le mensonge. Incroyable.
Non, pour faire rêver les gens.
Oui, avec le mensonge.
Le romancer quelque chose, c'est pas forcément mentir.
Quand tu rentres,
plus belle.
Non,
Dugas, quand tu rentrais de mise au vert, tu romançais un peu. Oui, le soir, on rééquilibrait la tactique, on travaillait entre nous. Tu disais pas, on est parti dans un bar à escort.
Non, voilà, ça n'arrivait pas.
Jamais, on joue aux cartes. On joue aux cartes.
Voilà. Tu romances.
Ça ne m'est jamais arrivé en 16 ans, la veille d'un match, d'avoir été dans un bar.
Attends, j'ai dans un bar à escort.
J'ai Mickey Madar. Non, mais arrête avec Mickey Madar. J'ai pas passé ma vie avec Mickey Madar. Arrête avec Mickey Madar.
C'est pas ce qu'il dit.
Donc, Maurice, à la 69e, je reprends le film du match, hein, parce que ça va être mieux. En tout cas, moins dangereux. Dugas, donc, tu fais passer le score à 4-2, donc, sur un but sur coup franc. Et ensuite, donc, sur corner, à la 71e, là, coach, tu faisais référence à ce but, effectivement. C'est Titi Camara qui tire le corner. On a l'impression presque que c'est Laurent Blanc qui la prend, mais c'est bien toi, Dugas, au premier poteau, là. Comme tu sais faire. Là, tu gênes le gardien et après hop on se décale.
Si tu veux des souvenirs que j'ai quand on revient à 4-2, c'est, sincèrement c'est encore loin d'être 4-4, il faut encore marquer deux buts parce que l'objectif à 4-2 c'est d'essayer pourquoi pas de faire 4-4, mais sincèrement j'ai l'impression que ça devient un match de hand. Montpellier n'arrive plus à ressortir les ballons. Nous, on passe de droite à gauche, on s'affole pas, on construit, on obtient des coups de pied à arrêter des corners, et on est quand même pas seulement dangereux sur les 5 buts qu'on marque, on a 4 ou 5 occasions aussi qu'on aurait pu marquer, notamment deux têtes de Laurent Blanc, une occasion de Dugas, un penalty, disons, qui est limite avant qu'il y ait le penalty de la victoire. Donc, à 4-2, on a l'impression qu'on va revenir à 4-4. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai du banc.
Il y a le 4-3, donc, de Dugas sur corner. Ensuite, Éric Roy, la 84e, va égaliser. Alors, le but, si vous ne l'avez pas en tête, c'est le but de Laurent Blanc contre le Paraguay, quoi. C'est la même chose, hein. Centre, une remise de la tête de Ravanelli, et derrière, Éric Roy qui conclut.
Et en deuxième mi-temps, Montpellier, ils n'attaquent plus du tout, quoi. Enfin, je crois qu'ils ont circulé. Je crois qu'ils ont une occasion, mais je suis même plus sûr, mais ils sont.
Mais oui, en début de deuxième mi-temps, ils ont l'occasion du cinquième par Fugit.
Ah oui, c'est ça.
On posera la question à Pascal Baïs qui sera avec nous dans 5 minutes.
Et là, Porato fait un beau sauvetage.
Ah, voilà, quand même. On lui reconnaît ça à Porato.
Bah, oui. Oh, il a bien fonctionné à Marseille. Il a fait, bon, là, c'est son premier match, c'est difficile, mais il a
bien réussi à Marseille. À Bologne, notamment, en demi de Coupe de l'UEFA, il fait un ou deux arrêts décisifs. Ouais.
Et après, qui va à Monaco?
Ouais,
non, il vient de Monaco.
Il vient de Monaco.
Il n'y retourne pas après? Si, je crois. Hein. Mais bon. Bon, en tout cas, voilà. Effectivement,
de toute façon, demain, on fait la carrière de Porato. Donc on peut,
si tu veux, Julien.
Ouais. Mais moi, si on peut faire tout à chaque fois, si possible, l'OM. Bloqué sur l'OM, ça m'arrange, moi.
Et donc, à la 90e, donc, Robert Pires va obtenir un pénalty pour une faute de Cyril Serezoum. Et donc, Laurent Blanc, qui était le tireur de pénalty. Enfin, j'ai en tête Bologne, là où il le tire deux fois.
Ouais, tireur de pénalty et de coup franc aussi.
Ah ouais, aussi, d'accord, je m'en souvenais plus. Et donc là, Laurent Blanc marque donc le but du 5-4. Et là, c'est le grand vélodrome, hein. Et on a l'impression, c'est marrant dans la célébration, qu'en gros, il y a un peu de pardon envers les supporters, quoi. Enfin, voilà. Désolé d'avoir été aussi mauvais pendant une mi-temps et maintenant on peut profiter.
C'est vrai que les supporters ont été bons aussi.
Aux supporters qui sont restés. Parce qu'il y en a une partie qui sont justement partis, qui sont revenus quand ils sont arrivés à la voiture, qui ont dit oh, qu'est-ce qu'il y a un but, il y a un deuxième but. Et il y en a qui sont revenus pour voir. De 4-2, on ne sait jamais, mais il reste encore 25 minutes plus les arrêts de jeu. Tout est possible. Donc il y a une partie du public qui est partie et revenue.
Des bons supporters, c'est bien ça.
Et Laurent Blanc, cette saison, donc, on le disait, tireur de coups de pied arrêté, qui est dans une des meilleures période de sa carrière à ce moment-là, selon vous, messieurs, du gars, coach.
Il fait une bonne saison. Il se retrouve dans la même
situation. Auxerre 96, c'est pas mal.
Il se retrouve dans la même situation de Dugas, puisque bon, il rentre en France pour faire une bonne saison, parce qu'Aimé Jacquet avait donné un petit peu certaines précisions, à savoir qu'il fallait, si possible, donc être titulaire à part entière, et si on peut être en France, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, l'année avec Aimé Jacquet avait été très agréable. On s'appelait 2-3 fois par mois. Il prenait un petit peu des nouvelles de Pires, Dugas et Laurent Blanc. C'était vraiment agréable de discuter. C'est le seul sélectionneur qui m'a téléphoné pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait.
Domenech, tu n'as jamais appelé? Ah ben non.
Non, j'ai pas eu ce plaisir. Non.
Ouais, c'est vrai que c'est que Aimé, il n'a jamais appelé Gullit.
Ouais. C'est pas possible, tranquille.
Bah alors, il y avait Dugue. Il est obligé d'appeler tous les jours, Dugue. Le père qui doit appeler le fils.
Oui.
C'est obligé, non?
Bah, bien sûr, bien
alors,
sûr.
Alors, si il s'en occupe bien.
Sors cette rancœur, mon Francky, c'est fou, ça. Il t'a fait jouer quand même la finale.
Mais je parle de toi.
Oui, mais il lui a pas parlé avant, du gars.
Ah ouais, non, mais c'est il parle de toi. Je parle pas de Lolo, je parle de toi.
Mais non, tu parles de toi, là. Tu parles de toi. Tu dis qu'il a pas appelé.
Il a jamais appelé Rugulite.
Il a appelé Rugulite. Non, mais parce qu'il appelait Duc, parce que c'était son fils.
Il appelait coach pour avoir des nouvelles de Blanc et Duga.
Non, il appelait pour avoir des nouvelles de Duga.
Ouais, c'est ça.
Et Duga, c'était son fils. Il a fait 30 ans pour avoir les nouvelles de son fils. On a dit dans d'autres émissions que c'était toi, t'étais le chouchou de lui.
Oui, d'accord, bien sûr.
Non, mais après, tu le transformes comme tu veux.
En même temps, Jean-Louis. On l'a transformé comme tel.
Voilà.
Jean-Louis, oui, il reste pas beaucoup de temps pour mettre quelques coups de rap à Duga, donc c'est maintenant ou jamais. Hein.
Bah oui, bien sûr.
Il sera plus là, donc.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il reste quelques semaines encore. Alors, dans un instant, on va donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais sur ce match. Ce sont les Montpellierains. Comment ils nous expliquent ça, de mener 4-0 et de perdre finalement 5-4. Pascal Baïs avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
Dans le meilleur de Team Duga, il y a bien sûr le meilleur du Blind Test, notre jeu qu'on a lancé depuis le début du confinement. Rendez-vous tout à l'heure, 19h45, pour entendre cette empoignade. Mais d'ici là, on termine notre débrief de Marseille-Montpellier 98 en donnant la parole au Montpellierain. Pascal Baïs était l'invité de Christophe Dugarry, Franck Leboeuf, coach Courbis et Julien Cazard. On est en direct avec l'ancien défenseur montpellierain Pascal Baïs. Bonsoir Pascal.
Salut Pascal.
Bonsoir.
Salut Pascal.
Salut Christophe, salut Roland, salut Francky.
Et ancien adjoint de coach Courbis, Pascal.
C'est ça.
Bah oui.
Ouais. Ouais.
J'ai eu ce plaisir, ouais. J'espère que c'est réciproque.
Bah oui. On a passé de belles années. D'ailleurs, si le Montpellier Rouen est là maintenant, c'est en 2009. C'est grâce à Roland. Hein. On est remonté.
Disons que sans faire le faux modeste, je vous ai aidé à remonter. Allez.
Par contre,
j'en profite de t'avoir. Il y a un truc que j'ai jamais eu l'occasion de et chaque fois j'oublie. Et pourtant, on a été 4 ans ensemble. À la mi-temps, est-ce qu'il est vrai que Xavier Gravelaine, qui venait de partir de, en plus de ça, on se met à sa place, qui venait de partir de l'OM, ouais. Qui avait été transféré, qui a fait le tour du vestiaire pour vous embrasser, vous remercier du 4-0?
Ouais, c'est vrai, j'ai bien renseigné.
Dans un vestiaire, il y a quand même pas mal de joueurs.
Xav, à la mi-temps, il nous dit merci pour le cadeau.
Ah ouais, c'est génial.
Remarque, à la mi-temps, en 93 de France-Bulgarie, il y avait Joe Dassin, l'Amérique. C'était pas mal, il y a des...
Mais c'est vrai que Xav, à la mi-temps, il nous embrassait tous, il disait merci les gars pour le cadeau.
Coach, il se régale là, quand on leur raconte ça.
J'étais pas sûr que ce soit vrai, donc je n'osais pas le dire, que si après c'est pas vrai, Xav, ils n'ont pas été contents, alors que on se taquine, il n'y a aucun problème.
On se met
à sa place. Hein.
Ouais. Après, à la fin du match, on lui a dit, mais tu peux... fermer ta gueule.
Tu nous as porté la scoumoune.
Mais c'est vrai qu'il a fait ça.
Et alors, Pascal, vous vous rappelez de cette première période où tout vous réussit?
Ouais.
Elle est énorme, la première mi-temps.
De mémoire, on doit attaquer 5 ou 6 fois et on marque 5 buts, dont un annulé. Hors jeu, pas hors jeu, et on marque 4
limite,
fois.
Voilà. Limite, celui qui
est annulé hors jeu. Et puis après, le match bascule à partir de la 62e ou 3e. À la mi-temps, Christophe rentre, et voilà, je crois que c'est lui qui fait marquer le premier but. Après, il a marqué un ou deux derrière. Ouais. En 8 minutes. Et
comme souvent, j'ai été déterminant dans le bon comme dans le mauvais sens.
En 8 minutes,
Le pire, c'est que Pascal, c'est qu'il nous a avoué qu'il n'en avait rien à foutre, qu'il ne voulait pas rentrer en plus.
Pascal, justement, à quel moment vous avez senti quand on est revenu, alors 4-1, 4-2, 4-3, où vous vous êtes dit, ouf, là ça pue, ils vont revenir ou ils vont peut-être gagner le match? À quel moment?
4-1.
Quand Duga est rentré.
Pas à 4-1, mais à 4-2, 4-3. Après, j'ai le souvenir que chaque fois qu'il y avait un corner, chaque fois qu'il y avait un coup franc, un coup de pied arrêté sur le côté, vous arriviez, nous on vous regardait, on reculait, on faisait que reculer, on se mettait dans le but. J'avais l'impression que vous faisiez tous 2 mètres et nous 1,50 m. Voilà, tous les coups de pied arrêtés, le stade à la mi-temps c'était un cimetière. Si on s'en souvient, tout le monde partait. À 4 à 2, 4 à 3, ils sont tous revenus. Et puis après, après ça a poussé, ça a poussé. Et puis bon, il y a aussi, je crois que Titi Camara était rentré aussi.
Ouais.
Cette bestiole-là, voilà. Et donc, voilà, vous nous avez usé. Et puis après c'est vrai qu'on ne tenait plus le ballon. Et, autant on vous avait fait mal en première mi-temps sur des contres. Et puis après, en seconde mi-temps, on a plus existé, quoi. En demi-heure, on... Et si le match continue 10 minutes de plus, on en prend encore 3 de plus, quoi. Voilà,
à 4-3, vous vous dites c'est inéluctable, ils vont y arriver?
On le sent. Eux le sentent qu'ils vont revenir. Ils ont plus de courage, ils font plus mal. Et nous, on ne fait que reculer et on sent qu'on est acculé, on sent que on subit tout et donc on sait que ça va se terminer mal pour nous, quoi.
Et quand t'es coach, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs à la fin du match? Déjà, j'imagine que les joueurs et vous tous êtes abattus.
Bien joué les gars.
Non, mais comment ça s'explique? Qu'est-ce qui se passe dans votre vestiaire?
Ben dans le vestiaire après c'est la désolation, il y a pas de mots, voilà, tout le monde subit. À l'époque le coach c'est Jean-Louis. Jean-Louis Gasset, pardon. Et j'ai le souvenir que il fait rentrer Philippe Delaye. Philippe Delaye, en seconde mi-temps, en lui disant bon, tu nous tiens le ballon. Ouais. Et voilà. Et Philippe Delaye a lui touché 3 ballons dans le match.
Il en a perdu 4.
Et Jean-Louis lui dit bon, tu rentres, tu nous tiens le ballon. Après on chambre, après on en rigole, mais sur le moment, dans les vestiaires, c'est la désolation.
Mais tu sais, on reparle souvent de la remontada du Barça et du PSG. On dit les cadres, ils étaient où. Et là, Montpellier, c'est la même chose. Montpellier, il y avait quand même Franck Sauzé, il y avait quand même Sylvestre, Martini dans les buts. Il y a Gravelaine qui a eu de la bouteille aussi. Enfin, il y avait quand même des cadres.
Robert.
Robert, exact. Il y avait Laurent Robert, il y avait Bakayoko. Mais il y avait Franck Sauzé, voilà, non, mais après on subit tout, on est en incapacité de réagir et de trouver, nous, sur le terrain, la solution.
Excusez-moi, Dugarry vient pas se comparer à Neymar, des fois, non, juste pour être sûr, là. Il s'est pas comparé à, non, ben, je sais pas, la remontada.
T'as un peu fait ce que Neymar a fait sur la remontada, voilà, Dugarry.
C'est une réalité.
C'est tiré par les cheveux, mais si tu veux, allez.
Ils ont fait les recherches dans toute l'histoire du football, je dis bien toute l'histoire du football. Il n'y a jamais eu ce scénario, que ce soit en club ou que ce soit en sélection. Ah. Un 4-0 mi-temps et un 5-4 de deuxième mi-temps, ça ne s'est jamais passé, sauf ce match-là.
En quoi ce match a eu des conséquences sur la suite de la saison? Peut-être aucune, hein, je ne sais pas, Pascal.
Pour nous, pas beaucoup, parce que...
c'est 8e.
On finit 8e, voilà, mais c'est l'année où Bordeaux donc finit champion de France sur le dernier match à Paris, c'est ça?
Oui, exactement.
Voilà, cette année-là, on va à Bordeaux, un match aller, pareil, on mène 1-0, Bordeaux touche pas le ballon et on perd 3-1, mais on fait une première mi-temps, une grosse première mi-temps. Après on tient pas le litre, mais en première mi-temps, j'ai le souvenir que Michel Pavon, on rentre dans le tunnel, il me dit c'est le Barça, voilà, il touchait pas le ballon et on menait 1-0.
Nous je crois que cette année-là, je sais pas ce que fait Bordeaux à Montpellier, moi je crois que cette année-là on gagne 1-0 à Montpellier.
Exact, ouais, tout à fait. Vous gagnez 1-0 et c'est ça, vous gagnez 1-0. Ouais. Marseille gagne 1-0 à Montpellier.
Mais je me rappelle pas ce qu'a fait Bordeaux.
Bordeaux, j'ai pas le souvenir. Je sais pas si on fait nul ou on perd.
Alors, je crois que Bordeaux gagne 3-1. À Bordeaux, ouais, ouais, aussi ouais. Ah non, à Bordeaux, pardon.
Oui, à Bordeaux,
3-1, ouais. Et à contrario, Roland, vous, ça lance votre saison ou...
Ben, c'est-à-dire, je crois qu'on est invaincu jusqu'à la 15e.
Et il y a un partout à Montpellier.
Bordeaux, à Montpellier, Bordeaux, ouais, on
est nul, ouais. On perd à Lyon à la 15e journée, notre premier match. Et sincèrement, le soir de s'enrouler les mécaniques, mais avec un petit peu de mon côté superstitieux, je dis c'est impossible qu'un match comme ça, qui est très rare, c'est impossible que ce match-là ne soit pas le match de l'année, parce qu'on a l'effectif pour. L'effectif pour de l'année où on sera pas champion. Donc je pense, même si on est à la troisième journée, qu'on va être champion et qu'on se rappellera de ce match-là comme l'un des matchs du titre. Et malheureusement, il nous manque un point.
On fait une belle année quand même cette année. Enfin, moi, j'ai un souvenir, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs cette année à Marseille où on s'entend tous hyper bien, on se retrouve tous les midis pour bouffer ensemble, on joue aux cartes, à la pétanque, les mises au vert. On passe vraiment les entraînements, c'est juste super. Enfin, moi j'ai souvenir de cette année-là, même si on n'est pas champion et que la fin est terrible. Punaise, c'était quand même.
Qu'est-ce qui se passe à la fin? J'ai pas suivi.
Ben quoi, je peux peut-être vous le raconter.
C'est quoi cette histoire? Vous n'êtes pas champion à la fin?
Merde alors.
Ah, oh, c'est pas la dernière journée que
c'est l'avant-dernière.
Il y en a 4 ou 5 de regrets à avoir,
notamment
pour
la défaite
pour
au
ce
parc.
Petit point qui nous manque. Tout simplement la qualification en quart de finale contre Parme. Bordeaux en prend 6 dans la tête contre Parme en quart de finale. Et ce soir-là, quand on regarde ça et qu'on sait que nous, on s'est qualifié, qu'on va jouer les demi-finales, on ne sait pas encore que ça va être compliqué à Bologne notamment.
À Bologne, ouais.
Mais je pense que le titre, il se joue aussi avec la non-qualification de Bordeaux contre Parme.
Oui.
Et bon, c'est comme ça. Après, bon, on va pas faire toute une liste. Je te donne rapidement un truc. On est à Auxerre, on mène 1-0 contre un bon Auxerre. Il y a pas la VAR, évidemment. Il y a un tir. Daniel Bravo, il est sur la ligne, il la prend en pleine poitrine. Le ballon même, il y a la trace. L'arbitre Duhamel qui ne peut pas nous voir et sans l'ombre d'un commentaire, et s'il nous écoute, eh bien je dis il peut pas nous voir, donc il n'a jamais pu nous voir.
C'est Duhamel, on lui fait une belle pub sur RMC depuis quelques jours là.
Il a toujours répété à des proches: Marseille, je peux pas les voir, mais c'est pas grave, chacun ses goûts. Et donc il nous expulse Daniel Bravo et pénalty. On termine à 10. Bon, et ça aussi, après, bon, que tu veux que je te dise.
Merci Pascal Weiss, ancien joueur de Montpellier.
Salut Pascal.
Et ancien adjoint.
Salut Pascal.
Rappelons quand même, ancien adjoint de coach Courbis, c'est un job à plein temps pour toutes les fois où coach est au téléphone pendant les entraînements. Il faut bien que quelqu'un gère. Donc bravo Pascal.
Merci.
À bientôt sur RMC. C'est vrai, Duga, non?
Ah bah oui. Les téléphones portables, Roland, c'était son truc. Hein. T'as dû avoir des putains de notes de téléphone portable, Roland. Hein,
ah bah, à l'époque,
on envoyait ça à Robert Longue-Dreyfus. Oh. Allez, bah il travaille, c'est du travail. Hein.
C'était le club qui payait.
Voilà donc pour ce Marseille-Montpellier incroyable avec plein d'histoires dedans. C'était génial de se remémorer ce moment. On revient dans une seconde pour la fin du meilleur de Team Duga avec le blind test.
RMC, 18h-20h,
le meilleur de Team Duga.
Le meilleur de Team Duga, c'est tous les soirs, le samedi et le dimanche, entre 18h et 20h, avant l'arrivée de Par ici la sortie sur RMC. C'est le blind test. Donc deux équipes, Julien Cazard, Franck Leboeuf ensemble, les humoristes, et Christophe Dugarry, aidé par Antoine Varnier qui est avec nous.
Bonsoir,
salut Antoine.
Salut champion. Antoine, est-ce que tu peux nous jurer sur la tête?
Oui.
Non, t'as combien d'enfants? T'en as qu'un?
J'en ai deux.
T'en as deux?
J'ai rien vu.
Franchement, t'as rien vu?
J'ai rien vu.
Sur la tête des enfants.
Je ne prépare pas le blind test.
Il y a tellement de travail en amont.
Tu peux dire les réponses directement sans le dire dans l'oreille.
Oui, c'est ça. Alors on y va, vous connaissez le principe. Hein, une chanson, ça dégaine. Derrière, une question foot.
Oh là, je
pense qu'Antoine va dégainer.
Lady Gaga.
Bien joué. Oui, Duga.
Ah, bravo.
Et là, personne te souffle. C'est génial.
Non.
je me méfie quand même.
Ou du moins, pas de Paris. Très bien. 1-0 donc.
Est-ce qu'il y a ta femme juste à côté de toi, Christophe?
Non, je vois pas d'équipe.
Non, non.
Ah, d'accord. Okay.
Lady Duga, Lady Duga n'est pas là.
Lady Duga.
Poker Face, nom de la chanson. On cherche donc un joueur qui a eu des gros gains au poker.
Dorasso.
Dans son
Dorasso,
carrière.
Neymar, Neymar.
Non, aucun de ceux-là. Un joueur passé par Nice, Arles-Avignon, Monaco, Marseille et Bordeaux.
Non,
Madar. Pas Madar, pas Loco. Trois sélections en bleu.
Jean-Yeti.
Champion de France en Ligue 2 avec Sochaux, vous êtes nul. Finaliste de l'UEFA avec Marseille.
Paille.
Non.
Qui...
Oui, Myriam, qui a dit Myriam?
Mathias.
Oui, Mathias, bien joué. Mathias, bonsoir d'ailleurs. On
ouais, hein. Ça part en vrille.
Mathias, tu es avec l'équipe de Julien et de Francky.
Ah, bah, c'est
il y a
bien.
Laurent également. Laurent, bonsoir.
Salut Laurent.
Tu es avec Francky et Duga. Voilà, oh, excusez-moi les gars, j'étais emporté par le fait qu'Antoine Barnier soit avec
nous. Il a gagné combien, Kamel Myriam?
Il a gagné 80 000 euros. Au poker.
Attends, mais Neymar, il a gagné 10 fois plus. Qu'est-ce que tu fais, toi?
Mais, alors, mais j'ai pas choisi de trouver Neymar.
Ah ouais, d'accord.
Pourquoi tu...
Ah ouais, j'adore le
pourquoi tu m'agresses, toi
mon pauvre. Ouais, t'as le droit de demander de quoi trouver Myriam.
Je demande ce que je veux.
Bah oui.
Et oh, Julien, il veut donner une réponse et que ce soit la réponse que j'ai décidée.
Julien, détends-toi, on a égalisé. On a égalisé.
Tu fais le malin. Pas trop malin.
Tu me fais pas peur.
On va se taire l'alcoolique, là.
Ouais.
Allez, on y va, nouvelle chanson.
Ah, c'est Dr. Dre.
Mais oui, Antoine, il est là.
Ah, mais ça, c'est les trucs de Jones.
Antoine,
bon, c'est les années 90.
Oui, c'est Jones.
Ah, bah, truc de Jones. Moi, j'ai arrêté la musique à partir de 90. Moi, j'ai
arrêté. Je suis en Julien Dre, j'aurais trouvé.
Oui, j'ai arrêté le foot.
Dr. Dre, style Dre. Qui était surnommé le docteur? Un joueur.
Doc River Viali.
Manu Petit.
Non, non.
Manu Petit.
Non. Ah, Socrates.
Eh oui, Francky, Docteur Socrates.
Je l'avais en plus.
Ah ouais.
Manu Petit. Ça fait deux partout, c'est un match non, magnifique.
Éventuellement le gynéco. Éventuellement,
il y a clairement l'équipe musique Antoine ouais. Et Duga et l'équipe ouais. Foot Julien.
Bah, ouais, ouais, ouais.
Nouvelle chanson, oh, c'est pas facile.
Ah, pour Duga, c'est dur. Ah, je sais ça. Tant.
On peut mort, écouter sinon mort.
Comment
mort. Michael Moore.
Oui, Michael Moore. Bien joué, Antoine.
C'est Michael Moore, ça?
Moi, je connais Michael Moore. Allez. Pas Michael Moore.
Michael Moore, moi, je connais que celui qui fait les...
les docs, effectivement. Ouais, bah, ça fait 3-2 pour les musiciens du Gary Varnier.
Ouais.
Sorti en 2012, donnez-moi un des deux meilleurs buteurs cette année-là de D1. Il y en a deux.
Si 2012
c'est...
Non.
Non. Benzema
non.
Déjà parti.
Un champion Nissan du monde. Lucas. Non.
Un champion du monde.
Non.
Un champion du monde, quoi?
2018.
Chamac.
Ah, Giroud.
Oui, Giroud, Antoine.
Ah oui, avec Montpellier.
Chamac, champion du monde 2018.
Ah bah tiens, Chamac, voilà du gars en moins bien. Là, voilà, Chamac.
Très bien,
Chamac, si c'est un peu du gars en moins bien.
4-2. Les artistes, vous pouvez
tout à l'heure, il cherche un mec en moins bien que moi. Il est fou, ce type.
Ça. Allez, on y va.
Ah, c'est...
Mika.
Oui,
bien joué, Ju.
Julien est un artiste aussi. Il est capable de trouver des chansons musicales. Bravo. Enfin, des questions musicales. 4-3.
Michael Madar. C'était ça.
Landreau.
C'était ça. C'était Michael Madar, non?
Bah, je voulais juste demander à un joueur qui est prénommé Mika.
Michael Madar.
Landreau.
4-4, on revient.
Ah, ils ont anticipé.
Oh, on est bon.
On va donc faire une dernière chanson.
Allez.
Nirvana.
Oui, Nirvana, bien sûr.
Bien joué.
C'est Laurent.
Ouais, c'était ma jeunesse.
Bravo Laurent, ça fait 5-4. Bravo, dernière question foot, donc sortie en 91, qui est 3ème de D1
Monaco,
cette année-là.
Auxerre,
Antoine.
Ah, bravo.
Non, c'est Antoine.
Là, c'est le décalage. Là, il est sur le décalage.
Victoire donc de l'équipe Duga.
Bravo.
Portée par Antoine. Et on embrasse celle qui est à côté de Duga. Oui, Julien.
Lady Duga.
Je reviens en studio bientôt parce que c'est trop la carotte de toi.
Et c'est le jeu, malheureusement.
Et je vais te faire te calmer un petit peu, toi. Parce que tu te racontes un peu.
Et pourquoi on prend l'accent marseillais quand on intimide?
Parce que quand t'as vu l'être violent, c'est plus impressionnant que dire je vais te taper.
T'as raison. Merci, Julien. À demain dans Team Duga. Merci, Francky. Duga, demain, 18h, retour de Team Duga. Laurent, on t'envoie bien sûr un t-shirt RMC pour avoir gagné ce blind test. Voilà donc pour le meilleur de Team Duga. On se retrouve soit demain pour se remémorer d'autres beaux moments de la semaine, avec notamment un débat sur Thierry Roland, le commentateur. Était-il le meilleur dans son rôle à l'époque? Ça a provoqué un débat assez sympa qu'on vous rediffusera demain. Sinon, rendez-vous lundi, 18h, en direct avec Christophe Dugarry et toute la Dream Team. Dans une seconde, c'est par ici la sortie sur RMC.
RMC, 18h-20h, le meilleur de Team Duga.